Bonjour à tous, maintenant que Rodolphe est là, on peut dignement commencer. Rappelez-vous que c'était lui qui nous martelait pour que nous commencions pile à 9h, mais aujourd'hui c'est nous qui l'avons attendu. Donc bienvenue à tous, on est exceptionnellement beaucoup en fait aujourd'hui pour accueillir Bernard Guittard qui va nous parler tout de suite de Monet. Et je vais laisser la parole à Laurent Hublet, qui est un spécialiste de Georg Simmel et donc de la Monet lui aussi à sa manière, et qui va aujourd'hui être un peu le facilitateur de nos conversations.
Ben oui, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on a la chance de parler des nouvelles monnaies pour des nouveaux liens. Alors, sans préempter ce que va dire notre interlocuteur aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un sujet particulièrement intéressant parce qu'il est souvent assez peu discuté, le thème de l'argent. Il faut dire que la doctrine macroéconomique classique le prend comme quelque chose qui est un peu un donné sur lequel on n'aurait pas d'influence. Et je pense que justement, la discussion d'aujourd'hui va nous permettre de voir à quel point en fait la monnaie peut avoir un rôle important en termes symboliques, et que ça n'est pas quelque chose de neutre, c'est quelque chose qui est fortement connoté. Alors notre interlocuteur d'aujourd'hui est un grand spécialiste en la matière, certainement beaucoup plus que moi. Donc Bernard Guittard, vous êtes ingénieur du CL, vous êtes également titulaire d'un MBA du MIT, et donc vous avez été haut fonctionnaire à la Banque Nationale. Vous avez entre autres dirigé le système de gestion de paiement électronique. Donc, vous avez été un praticien en la matière. Vous avez également été fondateur et gestionnaire d'un fonds de gestion de monnaie. De nouveau, vous avez été dans la pratique fort impliqué dans la gestion des monnaies. Et puis, vous êtes auteur de nombreuses publications en la matière, entre autres un livre qui s'appelle The Future of Money. Donc, je vous recommande vivement la lecture. Mais une petite anecdote à ce propos, si vous essayez de vous le procurer sur Internet, il est devenu extrêmement rare, et donc The Future of Money, qui est donc un livre sur les monnaies alternatives, est devenu un livre qui, en monnaie bien réelle, est devenu extrêmement cher à se procurer. Donc c'est un petit peu paradoxal et amusant, mais vous ne le trouvez plus en dessous de 250 à 300 dollars. Donc il est coté, il est bien coté sur le marché internet des livres. Et donc vous êtes également fondateur d'Access, qui est un think tank sur l'émergence des monnaies alternatives. Donc, s'il vous plaît, tardez, je vous aide.
Bon, merci. Bonne journée et félicitations pour le courage d'un samedi matin. Je suis impressionné. D'habitude, je ne suis pas nécessairement aussi matinal moi-même le samedi. Je vais vous parler d'argent, mais d'une façon différente de ce que vous êtes habitué. Quand vous avez parlé d'argent, je crois que dans probablement presque tous les cas, on vous a parlé de comment gagner de l'argent, comment investir de l'argent, comment donner de l'argent, comment perdre de l'argent, mais certainement pas ce que c'est que l'argent. Ou qu'est-ce que c'est que l'argent elle-même, la nature de l'argent, et les questions qu'elle pose pour l'instant. Je propose comme schéma d'interaction que lorsque je dis quelque chose, parce que j'utilise un mot qui n'est pas compréhensible, arrêtez-moi. Je crois que c'est ma responsabilité d'être compris plutôt que l'inverse. Vous devriez essayer d'apprendre un jargon qui est utilisé typiquement pour précisément cacher la réalité plutôt que la révéler. Je cite John Kenneth Galbraith qui dit que le domaine monétaire est celui dans lequel la complexité est utilisée pour cacher la réalité, pas pour la révéler. Je vais essayer de faire l'inverse. On va voir si on va réussir à la fin. On se trouve aujourd'hui exactement où j'espérais, quand j'écrivais le bouquin que vous mentionnez, le Future of Money, j'espérais qu'on n'allait pas se trouver là où on est. Le but de ce livre, qui a été publié il y a 10 ans, en exactement 10 ans, était de mettre en route une prise de conscience qu'il fallait faire quelque chose à propos du système monétaire, parce que sinon il va s'occuper de nous, et d'une façon qui ne nous plaît pas. Alors, je disais que tout va devoir changer d'ici 2020 dans le système monétaire, parce qu'il y a 4 méga-tendances qui sont absolument incompatibles avec la survie du système comme on le conçoit maintenant. La première, c'est le vieillissement de la population. C'est un phénomène mondial. Le Japon et l'Italie sont les premiers. Nous sommes dans la deuxième équipe, à peu près 5 ou 10 ans après. Lorsque Bismarck avait décidé que l'idée d'une pension était une bonne chose à l'âge de 65 ans pour récompenser le dur travail de toute une vie, l'espérance de vie était de 48 ans en Allemagne. Donc on ne risquait pas grand-chose. Une fois que ça devient 1% de la population, c'est une autre question. Deuxième aspect, changement de climat et extinction de l'espèce. Quand j'écrivais ça aux États-Unis, on me disait que je m'occupais de problèmes qui n'existaient pas. Maintenant, je crois qu'on commence à changer d'avis finalement. Troisième problème, l'ère de la fin de l'ère industrielle. On parle beaucoup du début de l'ère de l'information et de la connaissance. Ça, c'était la tarte à la crème des années 90. Ce dont on ne parle pas, ce que ça veut dire pour la fin de l'ère industrielle. Or, la fin d'une ère est moins agréable que le début d'une autre. Ça dépend dans quel... La plupart de nous sommes dans le vieux bateau. Alors, dernièrement, instabilité financière. Donc, voilà les quatre éléments qui allaient converger sur la période 2005-2020. Et que ces quatre mégatendances ont chacun une question d'argent qui explique pourquoi cette mégatendance est incompatible avec la survie du système comme il est conçu pour l'instant. Prenons des exemples précis. D'où viendra nécessaire pour payer les gens qui vont prendre leur retraite joyeusement à l'âge de 65 ans, un nombre de plus en plus nombreux, pour ne pas parler de l'aspect, disons, médical de la chose. Ne parlons que de la pension. Pour d'où viendront les emplois? L'ère de l'information, la fin de l'ère industrielle, l'idée d'un job pour tout le monde est une idée de l'ère industrielle. Elle n'existait pas avant. Le mot « job » en anglais n'existait pas avant l'ère industrielle. C'est un concept. « Work » existe. « Work » c'est autre chose. « Work » c'est quelque chose que vous faites parce que ça vous amuse, parce que vous intéresse, parce que vous passionne. Une œuvre d'art, une œuvre, le travail est une chose noble qui est très ancienne. Le job est quelque chose qu'on fait pour gagner de l'argent. Point. Ok. Et l'idée d'un job pour tout le monde date de l'ère industrielle et va mourir avec l'ère industrielle. Okay. Nous pouvons maintenant avoir une croissance économique sans impact économique. Sans impact de job, pardon. Les deux choses sont déconnectées. Troisième problème, le changement de climat et l'extinction de l'espèce, pour moi, nous savons depuis 1904... Monsieur Arrhenius, un physicien suédois, avait signalé que le fait que nous brûlons du carbone qui vient de couches anciennes, sous la forme de charbon ou de pétrole, va changer le contenu de l'atmosphère et que ça pourrait poser des problèmes. 1904, ça va? Donc, pas qu'on n'est pas averti, quoi. Hein. 1971, le bouquin du Club de Rome avertit clairement également qu'il y avait des limites à la croissance mécanique comme nous le concevions. Tout ça ne sert à rien. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas, c'est parce que ça n'a pas d'importance. Pourquoi est-ce que ça n'a pas d'importance? Parce que toute monnaie avec un taux d'intérêt positif escompte le futur à rien. Tout ce qui est au-delà de, allez, je vais être généreux, 20 ans, n'existe pas. Okay. Je dirais même, la plupart des cas, les entreprises sont gérées sur un horizon de 2-3 ans. Pour ne pas parler des 2-3 prochains trimestres. Bon, la somme de 200 trimestres ne fait pas un plan durable. Ça peut nous mener à des décisions tout à fait idiotes. Alors finalement, comment gérer une crise financière et monétaire systémique? C'est une question, surtout quand elle a l'ère de la globalisation, dans laquelle ça ne se passe pas dans un petit coin. Ça fait tache d'huile partout. Bien. Donc voilà les quatre questions que j'avais posées. Et je prétends, s'il y a quelqu'un ici, qui a une solution dans le contexte du monopole monétaire comme on le conçoit, s'il vous plaît, avertissez-moi. Ça fait 10 ans que je le demande, je n'ai encore jamais eu une proposition. Mais je suis intéressé, honnêtement. Je prétends qu'il n'y a pas moyen de résoudre ce problème. Je pense qu'on est coincé. Alors, on a finalement affaire avec ce que j'appelle le mur de l'argent. Il y a une idée très ancienne, si ça vous intéresse, j'y reviendrai, je n'en parlerai pas plus dans mon exposé, mais il y a une tâche aveugle. Nous avons une tâche aveugle, vous savez, l'endroit dans où les nerfs entrent, l'air optique entre dans l'œil, on ne voit rien. C'est évidemment intéressant comme métaphore. Nous avons la même chose à propos de l'argent. L'idée d'un monopole monétaire du type que nous connaissons est absolument presque universelle. Je dirais presque universelle. Et c'est totalement évident qu'il n'y a pas de moyen de faire autrement. D'où vient cette idée est intéressante? Parce que c'est là où nous sommes coincés. Enfin, je reviendrai si ça intéresse. Parce que là, ça nous amène dans la psychologie et des tas d'autres choses qui sont d'autres domaines que ce qu'on m'avait demandé d'adresser. Bon, alors, d'abord, voilà mon plan. La crise de 2008. Je vous dis tout de suite qu'à mon avis... Mais laissez-moi poser une question. Combien d'entre vous pensent que le pire de la crise est passé, est derrière nous? Un? Deux? Ok. Combien pensent que le pire est encore à venir? Bon, donc, clairement, il y a une majorité... Dans l'autre côté. Je crains que je suis d'accord avec la majorité. Je vous dis pourquoi dans quelques minutes. Ça, c'est donc la crise de 2008. Je vous signale également que tout ce que vous avez lu jusqu'à présent dans la presse concernant la crise n'explique jamais la cause. On parle des détails, des épisodes qui expliquent ce qui s'est passé cette fois-là. Mais, comme je vous dirai tantôt, il y a eu 97 crises bancaires antérieures à celle-ci, et il y a eu 187 crises monétaires dans les 25 dernières années. Peut-être qu'il y a autre chose qu'un accident, ou que M. Greenspan qui fait le job croit qu'il faut, hein, ou qu'il y a une régulation qui quelque part n'est pas en ordre. Hein. C'est un peu simpliste. Hein. Chaque fois on explique différemment. Hein. Le truc en Argentine c'est différent, en Brésil c'est différent. En Russie, c'est différent, mais c'est toujours le même système, hein, qui se casse la gueule. Alors, on le traite chaque fois comme si c'est le premier. Peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre. Et je vais vous montrer qu'il y a effectivement quelque chose à apprendre, quelque chose de systémique. Bon, quand on avait un système, la question n'est pas s'il y aura une autre crise, c'est quand. Bon, quand vous avez une bagnole qui fonctionne mal, ben, vous savez, je vais vous en utiliser une métaphore. Je vous donne une voiture. Elle n'a pas de frein. Et le volant marche une fois sur deux. Et je vous envoie en Italie travers les Alpes. Bon. Vous vous cassez la figure. Quel mauvais chauffeur. Terrible, terrible. Mais regardez-moi ces cartes routières. Elles datent d'il y a 10 ans. Cette courbe n'était pas sur le truc. Il faut une régulation différente. Personne ne parle de la voiture. Tabou, hein. La voiture, quelle voiture? C'est le temps qu'elle roule, évidemment, le système. Bon. Alors, je vous parlais de la solution et finalement, quelques opportunités, ce que je représente, pour des gens comme nous qui vivons dans ce petit pays qui est le nôtre. Voilà ce qui s'est passé. Les courbes, les bleues, représentent le capital, la valeur des banques, dont les noms sont par-dessus, un Citigroup, hein. Morgan, HSBC, voilà, Société Générale, le BNP Paribas qui a pris Fortis. Voilà, ça, c'est le bleu, c'est le cercle tel qu'il a la valeur en chansons en 2007, mi-2007, donc juste avant la crise. Ça a commencé. Et en janvier 2009, le petit cercle vert, c'est ce qui reste. Voilà. L'information vient de JP Morgan, ils sont très fiers de l'avoir de son truc comme ça. Une fois qu'on est fier de ne vous dégonfler que de autant, ben, il y a de quoi. Hein? Bien. Une implosion de cette taille n'a jamais eu lieu. Hein? Surtout dans sa simultanéité internationale. Je prétends que dans les bouquins d'histoire, on va parler différemment de cet événement que ce que nous avons entendu jusqu'à présent. Okay? On a fait semblant qu'on est encore dans une crise bancaire habituelle. On est sorti des rails. Bon, on va prendre le cas des États-Unis. Pendant la période Bush, on a parlé de 700 milliards, dont on a toujours parlé de TARP. En fait, on a fait le compte, pas moi, c'est Bloomberg, ce que pendant la période Bush, le gouvernement américain a engagé pour sauver le système bancaire, posant 4 600 milliards de dollars. Un trillion, c'est 1 000 milliards. D'accord ? On me suit ? L'estimation totale sera de 7,7. Bon, je suppose que, comme tout le monde, dès qu'on parle de milliards, on a déjà un certain problème. Quand on parle de milliers de milliards, ça fait des tas de zéros et puis on ne sait plus ce que ça veut dire. Alors, on va mettre ça un petit peu en perspective. La plus grosse dépense de l'histoire des États-Unis a été la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'eux ont payé. Eux ont payé à l'époque 288 milliards, ce qui, ajusté par l'inflation, est de 3,6 trillions. On me suit ? Quand on ajoute tout ça, la chaîne de Louisiane, le New Deal, le plan Marshall, la NASA, la course à la Lune, la crise de Savings and Loans de 82, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, on ajoute encore 3,3 trillions. On a dépensé en moins d'un an plus que l'histoire des États-Unis a dépensé dans toute son histoire, dans les grosses dépenses. Oui.
Est-ce que dépense est égal à garantie ?
C'est des commitments.
Donc vous assimilez dépense à garantie ?
Non, les deux. Il y a eu des dépenses et il y a eu des engagements. Des engagements. La distinction, d'ailleurs, on ne la voit jamais. On passe de l'un à l'autre sans en parler. On ne refait pas une grosse question en disant, tiens, nous avons donné une garantie, maintenant il faut qu'on l'utilise. Souvent, ça se passe. Okay? Mais on ne met que des obligations d'État en plus. Voilà ce que ça veut dire. Justement, les garanties, là, je ne parle que de garanties. Les actifs des trois banques les plus importantes, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gouvernements, l'année passée, ont fait un bluff. Ce sont les Anglais qui ont trouvé la solution, en faisant le bluff, en disant on garantit tout. On ne discute plus. Okay? Bon, parce que quand on essayait de faire des morceaux, ça n'allait pas, on paniquait ailleurs. Bon. Donc la meilleure solution, c'est de garantir tout. Ben, nous avons tout garanti. Pour la Belgique, ça veut dire qu'on a garanti 528% du produit de son objectif. Ce qui est assez amusant. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire que si le gouvernement possédait tout ce que l'on produit dans ce pays, il faudrait 5 ans et demi, 5 ans et un quart, de tout. Pour que... ben, voilà. Donc, autrement dit, ça ne va pas se passer. C'est garanti sur le bilan. Un bluff, ça fonctionne tant qu'un bluff, a bluff is not called. Un bluff n'est pas... Comment on appelle ça ? On appelle un bluff ?
Appelé.
On appelle un bluff. On challenge un bluff. Bon. Bref. Quand il est appelé, c'est là la deuxième partie de la crise. La deuxième partie de la crise, ce sont des villes qui vont banqueroute. Ce sont des États qui vont banqueroute. Ce sont des nations qui vont banqueroute. OK ? Tout ça parce qu'on croit que la seule solution possible, c'est de sauver ce système. Ce que les gouvernements ont appris dans les années 30, à juste titre, c'est qu'en laissant couler la banque, le secteur bancaire, on laisse couler le centre de l'économie. Donc on fait tout ce qu'il faut pour que ça ne coule pas. Ceux qui vont apprendre, à mon avis, dans cette crise, et nous ne sommes pas à la moitié, okay, je concœur avec la majorité, eh bien, c'est qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Ce qui est quand même un peu embêtant pour la survie du système comme il est conçu. Ben voilà les autres pays. L'Islande, c'est le premier qui est allé banqueroute, évidemment. Donc, on peut faire un dessin pour faire remplacer beaucoup de mots, et je crois que ce dessin-ci fait l'affaire. On peut regarder de haut en bas, de droite à gauche, on voit à peu près la même image. L'étape suivante, d'après moi, c'est une crise de l'air. Je partage l'opinion de Paul Volcker. Ça, c'est une image de la chose. Ce qui est intéressant n'est pas l'image, c'est l'origine. L'Economist. C'est même pas tout à fait la feuille de chou rigolade qui avance ce genre de choses comme si c'était un truc à lire. Hein? Nouriel Roubini, on a été en fait, j'ai fait le compte, on a été moins d'une demi-douzaine à avoir publié des choses annonçant la crise, dont je suis un, okay? Roubini en est un. On est une demi-douzaine à avoir publié des livres ou des articles annonçant qu'il y avait un problème structurel dans la très peu nombreux. Roubini en est un. Ça vient de Stiglitz. Stiglitz, prix Nobel d'économie, ancien économiste en chef de la Banque mondiale, actuellement le grand copain de Sarkozy pour repenser l'économie française. Voilà, il dit voilà, une récession, on discute toujours si c'est un V, c'est-à-dire profond mais court, ou U, c'est-à-dire plus long mais moins profond. Celle-ci est en aide de L. À ma connaissance. J'espère qu'on en a plus. C'est pas rigolo d'être parmi les plus nombreux. Ça. Je me suis traité de fou pendant des années. Je parle d'expérience. Alors voilà à quoi ça ressemble. Une image par un artiste suisse. Ça, c'est la PAL, donc le centre de la mairie, la banque nationale, le club des banques centrales. Un espèce de monstre prédiluvien qui vient bouffer notre petit déjeuner sans dire merci. Voilà. On a tout fait pour sauver le système actuel, y compris aller en compte. Et ce qui va se passer. Alors maintenant, bon, je prétends qu'on a relancé l'économie, donc on est tout à fait devenu de Friedmanien, on est devenu keynésien. Maintenant, on va relancer l'économie en faisant ça. Ça va quand on a affaire à un problème de nature cyclique. On se comprend bien. Une solution keynésienne n'est pas de solution structurelle. On essaye de faire avec une solution cyclique. Ça ne va pas marcher. Okay? Si c'est structurel, c'est perdre de temps. Bon, alors parlons de cause systémique. Jusqu'à présent, tout est clair? Je ne demande pas si tout est rigolo, hein. Ça c'est une autre conversation. Ça va devenir plus rigolo à la fin, j'espère. Parce que j'ai l'habitude de ne parler d'un problème que si j'ai au moins une solution à proposer. D'accord ? Donc voilà, à partir de maintenant, c'est le... Ça va ?
On ne peut pas commencer par la solution.
Il faudrait d'abord peut-être comprendre la cause, non ? Ce serait plus logique, on est quand même lumière. Cette formation cartésienne a quand même fait son empreinte. Bon, j'ai dû rigoler, j'ai pas pu m'empêcher de rigoler d'avoir la citation d'Alan Greenspan en octobre, cette année, ce mois-ci, qui dit, vous savez, le problème c'est la nature humaine. Okay. Ah, vous savez, tant que la nature humaine ne sera pas changée, on aura des crises. Ouais. Bon, peut-être. C'est peut-être si. Évidemment, l'intérêt de ce point de vue-là, c'est qu'il n'y a rien à faire. Un peu comme mettre une bougie à Saint-Antoine pour que la nature humaine se retrouve le meilleur des garants.
Non, Saint-Rita.
Pardon ?
Saint-Rita.
Saint-Rita. Merci. Vous semblez bien. Vous savez, c'est... Mon éducation dans ce domaine a été imparfaite, là aussi. Bon. Donc, on dit que, mon Dieu, les gestionnaires financiers sont des méchants, c'est leur problème. Deuxième solution, mais on a dérégulé, maintenant il faut re-réguler. Ah, vous savez, je suggère de lire la littérature sur le sujet, elle date de 300 ans. Il y a 300 ans, on parle de régulation bancaire, après chaque crise, on a chaque fois la même histoire, il faut ré-réguler un peu. On va changer un tout petit peu le machin. Ok ? Je prétends que c'est une perte de temps. Parce que les choses évoluent, les technologies évoluent, les moyens évoluent. Par conséquent, on trouve toujours un nouveau moyen pour faire le tour du problème. Quand on a une bagnole qui n'a pas de frein et qui a un volant qui marche une fois sur deux, le problème, ce n'est pas la carte routière. D'accord ? Donc ça, je vous l'ai dit. Alors, moi, je prétends que ça suffit pour dire qu'il y a autre chose. Quand vous avez changé 96 fois le conducteur et que vous avez eu 187 accidents de bagnole, je commence à m'intéresser à la bagnole. Je pense. Ce n'est pas le moment de regarder les cartes. Ça va ? Bon. L'origine de la démonstration scientifique de ce que je viens de vous dire, et pas métaphorique, est en fait un travail que je fais depuis quelques années avec un collègue de l'Université de Maryland, Robert Ulanovich, qui, comme son nom l'indique, est évidemment américain, n'est-ce pas ? Il a passé 25 ans à mesurer quantitativement des écosystèmes réels en utilisant la théorie des réseaux, c'est-à-dire qui bouffe quoi. Il y a le soleil qui fait pousser les plantes, il y a les animaux qui bouffent les plantes, il y a les animaux qui bouffent les animaux, on bouffe tout, et puis voilà, ça c'est un écosystème, d'accord. Et on peut donc quantifier, littéralement, en grammes, par année et par mètre carré, okay, un écosystème de ce qui se passe là-dedans en masse biologique, en biomasse. Et il a découvert certaines choses qu'il y a moyen de quantifier, ça c'est la première fois au point de vue théorique, ça c'est l'aspect le plus important de ce que j'ai à vous dire. On peut maintenant mesurer avec un métrique unique un chiffre, un pourcentage, si un système est durable ou pas, un système complexe ou pas. Jusqu'à présent, quand on parle de durabilité, on parle d'une demi-douzaine, on est en train de le faire d'ailleurs en France, hein, on va vous sortir 15-20 indices qui vous ont indiqué ensemble que peut-être qu'on a quelque chose qui va dans la bonne direction. Voilà. Maintenant, on peut faire ça quantitativement. Donc, pour les ingénieurs, c'est le bonheur. Bon. Il y a deux... Ce qu'il a découvert, c'est qu'il y a deux pôles qui sont mutuellement exclusifs et qui sont tous les deux nécessaires. Un pôle, c'est l'efficience, c'est-à-dire la capacité du système de processer, dans le cas du système de la biomasse, ou bien, de notre côté, sa résilience, sa capacité de survivre, de s'adapter à des changements d'environnement, des changements de contexte, des maladies, des crises. Bon. Donc ces deux trucs dépendent de variables structurelles. Ces variables structurelles sont diversité et interconnectivité. Pardon ?
La durabilité au sens de Ulanovich a quelque chose à voir avec la stabilité des systèmes immunitaires ?
Oui, c'est une. Oui, on peut l'exprimer pour stabilité. C'est vrai. Mais il y a en fait une stabilité, un caillou est stable. Hein. On se comprend ? C'est pas un système complexe. Quoi. Okay. Donc un caillou, c'est. Stabilité ne suffit pas. La Lune a l'air assez sale. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose qui se passe là-dessus. D'accord ? Donc, ce n'est pas stabilité. Tu parles de en fait, durabilité dans un sens de processus vivant. Okay. Donc,
c'est
un système complexe.
Pardon ?
Pardon ?
Sustainability.
Sustainability. Et oui. Et l'important, c'est de comprendre, ce sont des caractéristiques du réseau. Hein. La diversité et l'interconnectivité sont des structures du réseau. On se comprend. Maintenant, ce qui est intéressant, peut-être encore pas, dans la découverte qu'il a faite, c'est que ceci est applicable sur n'importe quel réseau d'une même structure. Okay? C'est la même règle, c'est le même concept, pour un écosystème avec la biomasse, des électrons dans un système de distribution électrique, de l'information dans votre système immunitaire, qui est un réseau, ou de l'argent dans une économie. C'est le même jeu. C'est la structure qui détermine la durabilité. Vous comprenez les implications? C'est énorme. Hein? Je vous signale, par exemple, que les grands blackouts électriques qu'il y a eu en Europe et aux États-Unis encore plus, c'était dû à quoi ? Ben, on a poussé l'efficacité. Hein. On connaît que l'efficacité. On a poussé l'efficacité jusqu'à un certain point où ça s'est cassé la gueule. C'est le même principe. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Voilà comment ça fonctionne. Vous avez ici la durabilité. Vous voyez ici la courbe en fonction de diversité et interconnectivité. Donc diversité, c'est combien d'espèces vivantes pour un écosystème sont différentes dans un milieu donné, et l'interconnectivité qui bouffe quoi. Le problème du panda, c'est qu'il ne bouffe qu'un seul type de bambou. Hein. Quand il n'y a plus de ce type de bambou, pas fini pour le panda. Hein. Bon. Donc ça, c'est un manque d'interconnectivité. Okay? Bon. Alors, ce qui est amusant, c'est que même mathématiquement, tout ça, c'est en fait assez poli. Il y a un seul optimum dans n'importe quel type de réseau. Il se trouve plus près de la résilience que de l'efficience. Donc, c'est, ça va de ce côté-là. Il faut plus de résilience que d'efficacité. Par contre, nous, comme ingénieurs bien formés, ou comme économistes, on connaît qu'une variable. Pour nous, il n'y a pas de limite. Il faut aller par là. Alors, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de la nature? Ben voilà, quand on va de ce côté-là, au-delà, donc plus d'efficience que l'optimum, vous avez automatiquement une fragilité. Hein? Les crashs se passent, les blackouts électriques dont je vous parlais. Bon. Et quand on va au-delà de la chose, au-delà d'une certaine fenêtre, voilà, tous les systèmes viables, réels, se trouve dans une petite fenêtre de viabilité autour de cet optimum. Quand on va au-delà de cet optimum, ça stagne, il n'y a plus rien qui se passe, tout est bloqué. Quand on va en dessous, okay, c'est plus efficace, mais ça se casse la gueule. La situation du système financier actuel est là. Donc, je répète ce que je veux dire, mais d'abord tantôt, une bagnole sans frein avec un volant qui marche une fois sur deux, vous n'allez pas arriver en Italie. Je ne sais pas dans quel tournant, mais ça m'en fout. C'est absolument garanti sur facture que ça ne va pas marcher. Vous allez faire ça. Et on a fait ça. Même si vous voulez regarder bancaire et monétaire, ce n'est pas la même chose, mais c'est plus au même système. Donc ça fait 225 fois qu'on fait la blague. On me suit jusqu'à présent? Bon. Alors, je vais vous parler d'une chose. D'un machin qui semble très curieux, qu'il faut diversifier les monnaies. Bon, quelle idée, hein? C'est-à-dire qu'il faut d'autres moyens d'échange que les monnaies conventionnelles. Parce que toutes les monnaies officielles sont toutes du même type, hein? Sont toutes des dettes bancaires. Hein? La seule différence entre le système soviétique ou chinois et le nôtre, c'est que l'actionnaire principal des banques est le gouvernement. Mais sinon, le mécanisme est identique. C'est-à-dire, les banques émettent, vous savez ça, hein, qui crée la monnaie. Hein. Ce n'est pas les gouvernements, c'est le système bancaire lorsqu'ils font un emprunt. On appelle ça en latin fiat money, pour vous assurer qu'on ne comprenne pas. Hein. Ça veut dire, fiat, c'est le premier mot que Dieu a dit dans la Vulgate, hein, fiat lux, que la lumière soit. Et la lumière fut, et il vit que c'était bon. Hein. C'était la capacité de créer ex nihilo, de rien, quelque chose. Voilà comment fonctionne notre monnaie. Bon. Et toutes les monnaies, hein, toutes les monnaies officielles. Il faut bien s'en rendre compte. Un autre truc qui fait partie du schéma de Pavoir. Hein. Alors, on va vous parler de faits de monnaie complémentaire. La critique qu'on a fait en parlant de monnaie, c'est moins efficace. C'est vrai. C'est moins efficace. C'est plus efficace pour les échanges et la formation des prix d'avoir une seule monnaie. Enfin, pas poussons la logique jusqu'au bout. Hein. Pourquoi est-ce qu'il faudrait avoir une pour l'Europe? Pourquoi c'est pas la même pour la Belgique? Pourquoi pas pour le monde? C'est plus efficace. Donc demandons aux Chinois de prendre la décision avec les Américains. Et bon, voilà. Problème résolu. C'est efficace. Okay. On ne fait pas ça. Parce qu'il y a d'autres éléments qui jouent. Mais voilà. Alors voilà, la solution systémique, vous avez compris, hein, il s'agit de faire ça. Alors je vais vous parler des restes de mon exposé, c'est à propos de ces monnaies complémentaires. J'insiste sur le mot complémentaire et à part alternatif, parce que l'euro est nécessaire, est une bonne chose. C'est le monopole de l'euro qui est un problème. On me suit? Remplacer un monopole par un autre monopole n'est pas une solution de monopole. D'accord? Ça ne vous fournit pas la diversité, ça. Hein, ok? On me suit, hein? Bon. Alors commençons par la base. Combien d'entre vous une formation d'économiste ici? Ok. Je prétends que vous n'avez jamais appris ce que c'est que la monnaie. Ce que vous avez appris, c'est ce que fait la monnaie. On vous a défini la monnaie comme ses fonctions, pas sa nature. D'accord? Les fonctions de standard de valeur, moyen d'échange et moyen de stockage de valeur d'épargne. Voilà les trois factions dont on parle dans tous les bouquins en économie, et tous simplement décrivent les fonctions de par la nature. On me suit? Voilà ma définition. La monnaie est un accord. Dans une communauté donnée, d'utiliser quelque chose de standardisé comme moyen d'échange. Ça a été des morceaux de métal, de l'or pendant longtemps, de l'argent, ça a été des bouts de papier, ce sont des bêtes électroniques. Historiquement, ça a été de tout. Hein. Des œufs, des plumes, des morceaux de pierre, enfin. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est que les gens sont tombés d'accord d'utiliser ce machin-là comme standard d'échange. Voilà comment ce que c'est que la monnaie.
Est-ce que dans votre définition, il faut que cet accord soit amené par l'État ou par le gouvernement?
Non. Non. L'État est un concept de 300 ans, 250 ans. La monnaie existe depuis 10 000 ans. Il n'y a pas d'État avant pour le dire. Avant ça, il y avait des prêtres qui faisaient ça, il y avait des rois qui faisaient ça, il y avait des empereurs qui faisaient ça, il y avait des villes qui faisaient ça, il y avait des monastères qui faisaient ça, il y avait des évêques qui faisaient ça. Bon, tout le monde faisait ça, ok? Bon. Donc, qui les met n'est pas nécessaire tant qu'on... Maintenant, je vous insiste, je me permets de dire que c'est un accord qui n'est pas nécessairement conscient. Vous savez, on est né dans la monnaie, on est monnaie dans notre monnaie, on vit avec notre monnaie, on meurt avec notre monnaie, on n'a jamais vu autre chose, donc on ne peut pas imaginer qu'il y a autre chose. Mais c'est un accord passif. Parfois, ce n'est pas passif. Ça peut être militairement imposé. Ok? Mais quand on a changé de système monétaire après l'invasion allemande, ils ont imposé leur système. Donc, je ne suis pas d'accord. Vous vous plaindre à la fin de la commande à tout. Ce n'est pas vos problèmes. Je n'ai pas dit que c'est un accord volontaire. Je n'ai pas dit que c'est un accord conscient. Voilà. Alors, il y a deux hypothèses implicites dans l'ensemble de tous les bouquins d'économie que j'ai vus jusqu'à présent, et j'en cherche de nouveau, qui n'ont pas pris ces hypothèses de base, okay, depuis la semaine jusqu'à aujourd'hui. C'est numéro un, que l'argent est un instrument neutre. C'est un outil passif qui permet de faire des échanges qui autrement se feraient peut-être moins efficacement. Okay. Ça ne change ni le type de transaction, ni les investissements, ni les relations entre les utilisateurs. Première hypothèse. Vous avez vu un bouquin d'économie qui n'a pas cette hypothèse implicite? Quelqu'un? Ça m'intéresse?
Oui.
Oui.
On a eu il y a deux ans Michel
Aguilar,
qui a parlé de deux théories de la monnaie. Il y a effectivement la théorie neutraliste, mais il y a la théorie dite essentialiste, qui parle de toutes les hypothèses sanitaires.
Et l'essentialiste dit quoi?
Bien justement, que la monnaie est une fonction essentielle de la cohésion sociétale, et donc c'est une des fonctions de gouvernement.
Voilà. Donc on retourne chez Aristote.
Oui.
C'est un attribut du souverain.
Et donc on arrive à toute l'histoire de la monnaie.
Mais moi je parle d'autre chose. Je parle encore d'autre chose. Je dis que c'est la domotique qui change les relations entre les utilisateurs. Ça, c'est ce qu'on vient d'a dit. D'accord? Ça, je suis d'accord. En fait, en termes techniques, on peut dire que ça crée un espace d'information commun dans lequel l'information des prix peut se faire. C'est une manière technique pour décrire ce que je viens de dire. Mais il y a des choses en plus. Ça change les horizons d'investissement. Le court termisme est dû à la monnaie. On n'a pas parlé de ça. Ou que les choses, que le type de transaction change. L'attitude vis-à-vis de l'argent. Okay. Bon. Deuxième hypothèse, c'est que c'est un fait identique. C'est comme ça. La monnaie est ce qu'elle est. On est né avec, on va manger avec, tout va bien. Il s'agit de le garder en aussi bon état que c'est possible. C'est tout. Il y a un satellite autour de la planète Terre. Des fois qu'on a regardé, il y en a toujours comme ça. C'est comme ça. Il y a une lune, il n'y en a pas deux. Ces deux hypothèses sont fausses. Prouvez académiquement, empiriquement et empiriquement que c'est faux. Ok? Ben. Ça n'a pas d'importance, on n'entend pas. On tourne à la tâche aveugle. Alors, ce que je vais vous faire, c'est dire qu'est-ce qui est impossible lorsque l'on sort de cette boîte. Et ce que je crois, la première chose qui s'avère possible, c'est de se préparer pour autre chose. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est de se précipiter tout dans la même direction. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la révolution a déjà eu lieu. Elle a déjà eu lieu, et personne n'en a parlé. Je vais vous parler en une phrase des dizaines, des centaines de milliers de ce que j'appelle des monnaies de royauté, des monnaies de commerciales, les points Carrefour, les points Deleuze, les miles des lignes d'aviation, les trucs pour votre librairie, pour acheter des bandes dessinées, enfin bref, bon, c'est infini, les trucs. Bon. Tout ça, c'est des monnaies autre que la monnaie nationale utilisée comme moyen d'échange standardisé, on est bien d'accord, dans une communauté donnée. Communauté peut-être simplement les gens qui achètent le bande dessinée au même magasin. Ok, on me suit, oui, ça va, il y a, oui, en fait, Bretton Woods n'était pas un backing avec de l'or, c'était l'équivalence entre le dollar et l'or.
Oui,
c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Hein. Bon, d'abord, je dirais que le standard or n'a jamais vraiment été appliqué. Même du temps des Anglais, au début du XXe siècle, il y avait. Je vais vous donner une anecdote. Le gouverneur de la Bank of England, qui était une compagnie privée à l'époque, était questionné dans le Parlement anglais. Et on lui a posé la question, Mr. Governor, combien d'or est-ce que vous avez à la banque nationale? Il dit, an ample sufficiency, sir. An ample sufficiency. Could it be more precise? No, sir. Il refusait de donner les chiffres. À cette époque-là, on sait qu'il avait une couverture de 12%. D'accord? Bon. Après, quand on a l'équivalence avec le dollar, Bretton Woods, okay, ben, finalement, il avait la seule contrainte qui était construite dans le système pour que les Américains n'abusent pas des privilèges, le privilège exorbitant dans l'expression de Charles de Gaulle, hein, le privilège exorbitant du prince, je crois que si mes souvenirs sont bons, c'est en fait la capacité de créer de la monnaie et vivre de ça sans devoir fournir rien en échange. Hein. Bon, et ils ont fait ça sérieusement. Et ça s'accélère. On a quand même doublé la quantité maintenant. C'est à d'ici. Par bref, plus intéressant pour nous, à mon avis, sont les monnaies de nature sociale. Okay? C'est-à-dire qui changent justement la relation à vie. D'accord ? Qui sont conçues pour ça. Qui ont cet effet et cet objectif. C'est le temps. Okay? Aussi le website du Time Dollar, il y a 403 ou 400 systèmes dans le monde de ce type-là, dans lequel ça fonctionne comme ça. Moi, je fais quelque chose pour vous pendant une heure. J'ai un crédit, vous avez un débit. Bon. Si vous faites quelque chose pour moi pendant une heure, on a fait simplement un troc. Hein? Bon. Si par contre, mon crédit, je peux aller chez vous, je reçois un massage, et vous travaillez dans son jardin pendant une heure, on a créé une monnaie à nous quatre. Bon. Vous avez aussi compris que cette monnaie ne va pas être plus rare qu'elle est nécessaire. Si ça prend 2 heures, on peut tomber d'accord sur 2 heures. Essayez de faire ça avec 2 euros, vous allez en prison. Hein? D'accord ? Commencez à voir la différence d'attitude qu'on peut avoir avec les différents types de monnaie. Ça va ?
Vous pouvez répéter ça ?
Nous avons créé à nous quatre une monnaie. Cette monnaie ne doit pas être rare. Elle doit être en suffisance. Elle est automatiquement en suffisance puisque j'ai fait quelque chose pour 2 heures pour lui. J'ai un crédit de 2 heures, il a un débit de 2 heures. Je reçois 2 massages chez elle, et lui a travaillé 2 heures dans son jardin, problème résolu. Hein. D'accord ? Avec 2 euros, ça ne marche pas comme ça. Hein. Il faut que quelqu'un obtienne des euros en dehors, soit par un emprunt auprès d'une banque, et payer des intérêts dessus, ou bien gagner dans un jeu compétitif dans lequel tout le monde est contre tout le monde, pour extraire du système les euros nécessaires pour qu'on fasse ce petit échange. D'accord ? Vous avez compris la différence d'attitude ?
Par exemple, c'est Pardon ?
Le sel.
Le sel est dans, le sel est une variation, ceci. Donc aussi un crédit mutuel. C'est une famille de monnaies complémentaires. Ce ne sont pas toutes les monnaies complémentaires.
Et le sel,
une famille de monnaies.
Le sel, c'est un échange local.
Il y en a plus de 1000 dans le monde. C'est le plus grand nombre dans mon graphique, en fait. Dans ce truc-ci, ce n'est pas classé. C'est classé par pays, mais pas par type. Mais il y a à peu près un cinquième de ça, le plus gros bloc. C'est des types sel, des lettres en anglais. Furiakipu, Japon. Je vous ai dit au début que le Japon avait un problème de vieillissement de la population. Ils sont maintenant là où nous serons dans 5 ou 10 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez, quand on a un problème de vieillissement de la population et qu'on a des soins à donner, quel que soit la nature de ce soin, que ce soit des poisons, que ce soit des trucs médicaux, que ce soit la combinaison, ils ont voulu une tarte donnée. Okay, et voilà. Il y a deux, dans le contexte de monopole monétaire, de monnaie conventionnelle, il y a deux solutions. Il n'y en a que deux. Je défie de nouveau quelqu'un de trouver une troisième solution. Ça va? La première solution, c'est on a fait une promesse, on garde nos promesses, on va banqueroute. Le gouvernement va aller banqueroute s'il tient la promesse qu'il a faite aux gens qui vont se retirer. Deuxième solution, la solution anglo-saxonne, les Anglais et les Américains, on a une tarte d'un morceau d'une taille donnée, on va couper les morceaux de plus en plus petits, comme ça ils créent peut-être plus vite, c'est moyen de résoudre le problème. D'accord? Il n'y a que des combinaisons de ces deux solutions. Troisième solution, on crée une monnaie. C'est le Furiakip. Ça s'appelle un Caring Relationship Ticket en japonais. C'est démarré par ce monsieur-là, qui est un, j'ai eu le plaisir de connaître. Hata-san, Tsutomu Hata, a été. Il a fait une carrière assez connue au Japon. C'est lui qui a descendu le gouvernement Tanaka pour scandale de corruption, pour ceux qui ont souvenir longtemps, dans l'année 70. Le Japon, voilà comment ils font. On a une communauté, disons dans mon quartier de Bruxelles ici à Etterbeek, okay, on crée une ASBL. Et cette ASBL gère une monnaie qu'il appelle Furiakipu. Furiakipu est quoi? Alors, je fais quelque chose pour un de mes voisins qui a besoin d'aide. Par exemple, tout ce qui n'est pas couvert par les contrats à maladie et invalidité sont couverts par Furiakipu. Ça va? Tout. Par exemple, faire des achats, préparer l'aider pour la nourriture. Par exemple, pour le cas du au Japon, l'aider pour le bain. Le bain est un rituel important, quotidien. Le japonais, normalement, continue de prendre un bain tous les jours. Bon, quand il y a besoin d'aide pour ça, ben, écoutez, il ne faut pas avoir un diplôme de nurse pour pouvoir faire ça. Hein. Faire des achats, fait ça en même temps que les miens. Je reçois des crédits dans un compte d'épargne en temps plein. J'ai fait pendant une heure des achats, je reçois un crédit d'une heure sur mon compte d'épargne. Qu'est-ce que je peux faire avec ce petit compte d'épargne? Ben, j'ai une rhume, je téléphone, quelqu'un va chercher mes enfants, quelqu'un du réseau à qui je peux avoir confiance. Hein, ce n'est pas, on prend ça pour quelqu'un là, dans la rue pour aller chercher mes enfants. C'est pas on est dans un club, okay, dans une ASBL dans laquelle on est membre. Hein, donc on a confiance. On se connaît. On sait qui est qui. Et ils vont chercher mes enfants, ils vont chercher mes médicaments, ils vont chercher la nourriture, ils font tous les mêmes genres de services. Ou bien, je peux envoyer mes crédits à ma mère, qui habitait à Courtrai. Je fais ça électroniquement et quelqu'un se fout d'elle. Bon, on a fait une enquête auprès des personnes âgées concernées. On a demandé qu'est-ce que vous préférez, les services fournis par des gens qui sont payés en yen ou les gens qui sont payés en Furiakipu. La seule différence, c'est que la monnaie dans laquelle ils sont payés. Réponse universelle, Furiakipu. Pourquoi? La relation est différente. Je me permets de signaler, sous ceux qui ont pris un cours d'économie, prenez ces petits en mettant en rouge. La relation est différente. On peut recommencer à zéro en théorie économique. Hein. Quand une différente monnaie crée une autre relation entre les gens, ben on est dans un autre univers. Hein. Donc, on n'a pas encore regardé. Donc, on n'a pas admis l'existence. Okay. On voit l'ampleur. Okay. Il y a 487 systèmes opérationnels au Japon et 1,8 million de personnes qui ont besoin d'aide quotidienne au Japon. problème. Ça aide aussi pour les budgets normaux, hein. Parce que la personne qui s'est cassée la jambe, bon, ben, on l'enflamme à l'hôpital tout de suite pour réparer sa jambe, mais maintenant elle peut rentrer chez elle plus vite, parce qu'il y a quelqu'un dans le voisinage qui va s'occuper de la rendre possible sa ville. Sinon, vous êtes coincé à l'hôpital, hein, ou bien dans un homme, hein, où il crève de tristesse.
Mais ça existait là encore ?
Bien sûr que ça existe.
Ça existait. Moi, je suis dans un petit patelin.
Oui. Eh bien, bon. Ça a existé de façon informelle.
Les paysans qui tuaient son
cochon. Et pour, on ne le fait plus.
Tout le voisinage était là.
C'est
un tout petit échec.
Bon. En fait, si vous voulez ma réponse à ça, je dirais que nous avions dans le temps des liens sociaux dans lesquels l'esprit de communauté existait. Et l'esprit de communauté est alimenté par le don. Il y a des monnaies qui sont compatibles avec le don et des monnaies qui ne sont pas compatibles avec le don. L'euro, ou les monnaies dites nationales, ne sont pas compatibles avec le don. Si vous voulez faire l'expérience, la prochaine fois que vous avez l'anniversaire de votre femme, donnez-lui un billet de 100 dollars, et voilà, c'est pour toi, c'est bon anniversaire. Et tu regardes la vie, ça n'est pas compatible. Alors vous l'affrontez à la figure. Bon. Donc il y a. Pardon ?
Qu'est-ce qui valorise les types de services ? Parce qu'on fait de valorisation. Les services, donc ça donne de valeur, c'est pour pas de valeur, quand même.
Si, ce sont des œuvres. Tout le monde est capable de faire cette heure pour le même temps. Okay. Une heure, c'est 60 minutes la plupart du temps. Okay. Donc il n'y a pas d'inflation. Qu'est-ce que vous voulez faire avec la vue ? Supposons qu'il y a quelqu'un qui triche. Dramatique. Qu'est-ce qui va se passer ? J'ai 1 million de créditeurs. Je peux être 1 million de fois malade. Bon, ça ne sert à rien. C'est un jeu de communauté. C'est un jeu de communauté. C'est un jeu de communauté. Et c'est un truc qui est compatible, un moyen pour arriver au stade où on peut retourner à ce que monsieur a dit, qu'on n'a plus besoin de ça. Pour moi, un grand succès d'une monnaie sociale, c'est qu'elle n'a plus été nécessaire. Tout le monde joue le jeu sans avoir la comptabilité.
Oui. Mais si j'étais malade et dans le besoin, je préférais un bain et un soin donné par une infirmière diplômée que par un cadre de la Banque nationale.
Là, vous venez très personnel.
On est tout d'accord avec toi.
Mais écoutez, il y a deux solutions. C'est couvert par la maladie invalidité, faites-le.
Non,
je suis concret. Est-ce que c'est couvert ou est-ce que c'est pas couvert par le contrat d'assurance que vous avez ? Si c'est couvert, faites-le. Pas de problème. Si c'est pas couvert, payez-le en euros. C'est votre problème. Pas rien. D'accord ? C'est votre préférence. Ok ? Moi, je n'interfère pas. Je donne simplement un outil ici.
Oui, d'accord. Oui, on est bien. Bon. Oui, on est bien d'accord. Dans notre système monétaire actuel, il n'y a personne qui triche. Hein.
Oui.
Il n'y a personne qui triche. Hein. Il n'y a pas de triche.
Ben bon. Écoutez, essayons de continuer parce que je pense que je ne dois pas entrer dans la discussion sinon on ne termine pas. D'accord ? Je préfère, s'il y a des questions de clarification, c'est ce que je vous ai dit, interrompez-moi. Mais si vous me comprenez, n'êtes pas d'accord, continuons parce que sinon on n'arrive pas.
Il faut le clearing house.
Le clearing house, ils échangent des choses. Les 486 systèmes ont deux clearing houses entre eux, au Japon, électroniques, qui envoient le crédit d'un système à l'autre. Ma mère est à Courtrai, moi je suis à Hervé. C'est tout. Pas d'autre.
Et chaque clearing house, c'est quoi, on appelle ?
Pardon ?
Deux clearing houses, c'est ça ?
Deux clearing houses qui permettent d'envoyer des crédits d'un système à un autre système.
Vous avez des invités de Paris qui arrivent. Je le vois absolument.
Ben, prenez les chaises et installez-les. Là, sinon, vous allez voir. Installez-les là au milieu, quelque part. On a déjà dit tout l'essentiel. Hein. Enfin, ça vient, vous savez. Ok. Bon. Donc la question était ce que font ces clearinghouses. Ce que ces clearinghouses font, c'est simplement changer le crédit que moi j'ai gagné à Derbeek à un autre ASBL qui le fait là-bas. Bon. Je dirais, attention, ça va plus loin. Supposons que ma mère, que je ne gagne pas cette mère, et que ma mère en a besoin. L'ASBL là-bas va le donner. Ce n'est pas indispensable que je fasse. Mais c'est une manière pour moi de donner un signal à ma mère que je suis là quand même. Et c'est ça qui change la relation. D'accord ? On me suit ? Bon, ça c'est l'inauguration d'un système qui s'appelle Love. Vous voyez, tout est en japonais, sauf le terme Love. C'est Local Value Exchange. Okay. Dans la ville de Yamato City, 700 000 habitants, plus d'un tiers des habitants utilisent ce système. C'est un système dans lequel la ville fournit à toute ASBL qui le désire le paquet de cartes nécessaires et les lecteurs nécessaires pour créer sa propre monnaie pour faire les choses qu'ils ont envie de faire. Ça va ? Moi, j'ai envie d'avoir ma rue avec des fleurs, je trouve mes voisins, on va faire un système, on va créer un système pour faire des fleurs et on va créer des équilibres. Je m'occupe de mentoring des enfants dans les écoles. Voilà. Donc, c'est un système, un métasystème qui fournit des systèmes de paiement pour les initiatives de ce genre. Moi, je pense que ce genre de choses, vous devrez faire à Bruxelles. Okay? C'est une des idées. Ça, c'est une monnaie papier. Il y en a. 95% de toutes les monnaies complémentaires sont électroniques. C'est exceptionnel que ce soit pas. Comme d'ailleurs, on est normal. Mais c'est l'idée que les autres ne voient pas. Je pense que tout le monde est dans mon ordinateur. Donc, ça, c'est celui de Ithaca. C'était un prototype. Il y a maintenant une quarantaine de systèmes de ce genre aux États-Unis. L'unité, elle vaut un temps, une heure. Dans ce cas-ci, ça vaut 10 heures. Du système, on peut parler de la PMI, il n'y a pas d'équivalence sur cette monnaie. On ne peut pas acheter les PMI, on peut les gagner. Ici, on peut les acheter. D'accord ? Notre système. Ça, c'est le King Power en Allemagne. C'est une monnaie régionale, la famille des régions. Il y a 64 systèmes en région, dont 28 sont opérationnels en Allemagne. Ceci est un des premiers, un peu chronologiquement, c'est le second, le premier d'après-midi. Le King Bauer, c'est en Bavière. Vous remarquez ce petit timbre ? Tactemest, il faut mettre 2% de la valeur de sur le billet, un petit timbre de 2% de la valeur, de façon à ce qu'il reste valable. C'est en fait une manière d'obliger, on n'a pas obligé, de donner une impulsion pour que la monnaie soit calculée comme un départ. Une tête peut circuler. C'est les commandes. Oui, on achète, comme dans le cas du Ithaca Hours, on peut acheter les King Hours en euros. Un King Hour vaut un euro. Et d'ailleurs, en fait, c'est même mieux que ça. L'avantage, ça fonctionne. Quand vous achetez pour 100 euros de King Hour, vous aurez 110. Mais ils sont acceptés à parité, ce qui fait que ça vous donne 10% de réduction dans les magasins implicitement. Les magasins eux-mêmes peuvent l'encaisser pour des euros, mais à 95. Ce qui fait que eux ont intérêt à pousser à leurs fournisseurs. Ce qui crée une économie locale. Au début, les hommes d'affaires n'aimaient pas ça. On a fait une expérience, on a fait une enquête, il y a 600 entreprises qui sont venues là-dedans. Ça fait frontière avec la Triche, en fait. On fait une alliance avec le Stelpar. Et maintenant, les hommes d'affaires adorent. Pourquoi ? Il y a un type qui a le cinéma, qui a le cinéma dans la région, et voilà, mon meilleure période, c'est deux dernières semaines de trimestre. Tout le monde a mis ses copines. Hein. Bon, on va. Donc, vous voyez la logique. Donc, c'est une autre dynamique. C'est ça que vous comprenez. En tant qu'homme d'affaires ou femme d'affaires, vous voyez qu'il a commencé à moyen de faire des choses ici qui ne sont pas. Ça fonctionne différemment. Je pense à une valeur équivalente. Ici, pour un euro. Alors, je ne veux plus être plus rapide ici. Il y a actuellement un projet en cours, dont je suis le chef de projet pour l'instant, d'une écologie, de créer une écologie de monnaie complémentaire. Ça a été commencé par le gouvernement précédent. Aujourd'hui, en 2010-2011, on aura le système opérationnel de la ville de Bordeaux. Et l'idée, c'est qu'on va introduire une monnaie complémentaire, une famille complémentaire, avec des besoins différents, dont un foyer à Kipou, dont une monnaie d'apprentissage, pour encourager l'apprentissage, le learning, dont une monnaie pour
on va utiliser les techniques de paiement, tous les aides sont obligés d'avoir une carte d'identité. L'idée, c'est de faire la transparence, évidemment, pour éviter tout problème de travail. Deuxième truc, l'intergénérique immobilière suisse, ça c'est une initiative de M. Traskap, ici, qui vient d'arriver. C'est une idée de le BIR suisse, c'est une monnaie qui existe depuis 75 ans, bon, personne ne parle, on n'a pas vu, je crois qu'elle est nouvelle. Il y a 65 000 entreprises suisses qui en font partie, il y a un quart d'entreprises suisses, dont la majorité, par exemple, tous les hôtels, tous les restaurants suisses acceptent les BIR, qui n'en parlent pas, sauf que c'est vraiment bon. Et il y a possibilité d'utiliser la capacité d'exporter vers la Suisse et de payer en BIR et faire une triangulation. En fait, ceux qui sont intéressés à investir en immobilier en Suisse, et il y a moyen de faire une triangulation avec cette monnaie. Ça, c'est un des travaux sur la question. On peut passer la parole à M. Fessa. Il y a un Interreg qui est en gestation, il a décidé d'ici la fin de l'année. Et on comprend toute la ville de Bruxelles, mais aussi Dublin, Bristol et Glen, pour une monnaie, pour donner une motivation de réduire les émissions de carbone au niveau du consommateur. Quand vous achetez quelque chose qui a une réduction de carbone, vous obtenez des prix en kilo de carbone. Ces kilos de carbone sont utilisables pour acheter d'autres choses. Et une économie de réduction de carbone. Voilà. Plutôt que de tourner à Carrefour, vous avez acheté des choses de. De fidélisation. Et finalement, la préparation d'un réseau européen de monnaie de type C3. Parler de C3 en fait 10 minutes, parce que ça, c'est, je crois que c'est la chose qui pourrait vous intéresser le plus. Bon, vous le savez, tout le monde le sait, dans le secteur privé, le gros des emplois sont dans le pays.
Alors, les emplois
sont dans les PME, les petites et moyennes entreprises. Je viens de rentrer de Bretagne, c'est plus de 90%. Pour la Belgique, je ne connais pas les chiffres.
Au moins 70%.
70%. Voilà. Donc, bien. Le problème des PME, bon, il y a un problème que les PME qui ont des employés ont déjà résolu. Ils ont des clients. Par la vision, on n'est pas 25 personnes qui sont là pour chercher une vie. Déjà un business client qui produit un bien ou un service, un petit acteur du monde, ce n'est pas en moi, je n'aurai pas des emplois. Et, cependant, ce qui vous menace, c'est l'étranglement pour la cache. Combien d'entre vous sont des PME? Bon, vous en savez plus que moi, donc quand je dis un mot qui n'est pas juste, vous corrigez-moi.
L'étranglement pour le cash flow.
Le cash flow est le problème principal. Ce qui se passe, c'est que tous vos fournisseurs peuvent vous payer cash à 30 jours et tous vos clients vous payent à 90 jours quand vous avez de la chance. D'accord ? Quand c'est le gouvernement qui est supposé légalement payer à 50 jours, il n'y a pas de chance, c'est d'accord ? Alors, plus vous essayez de vendre, plus que vous vendez, plus vous cassez la gueule. D'accord ? Parce que vous allez à la banque, PME, 1 million de dollars, euros, pas de chance. Sont les montants compétitifs pour ouvrir un dossier. C'est emmerdant. Okay. Ça coûte le même boulot que de faire un crédit de 100 000 euros, pas de 100 millions d'euros. C'est le même boulot, c'est le même travail. Vous pouvez vérifier que l'entreprise est sérieuse, que le produit machin. Bon. Et après, ben, le profit est proportionnel au montant. Donc le fait que vous êtes petit, vous êtes structurellement, hein. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas gentil, parce qu'on n'est pas bon, pas au niveau de mon affaire, parce que votre idée n'est pas bonne, tout ça. Ce n'est pas profitable de travailler avec des PME. Voilà le problème. Alors voilà, la solution est ici. Et curieusement, elle a été inventée, vous l'avez déjouée, en chose en Amérique latine. Okay? Parce que là-bas, ils ont un problème de beaucoup plus grave. Un taux d'intérêt pour un crédit prendre votre nez, un chose, un crédit de compte. En Dubaï, c'est entre 30 et 180. Alors, avec des chiffres comme ça, la solution qu'on propose leur coûte 1. Ça va ? C'est pas divisible. La solution, c'est quoi ? On utilise des factures assurées comme moyen d'échange. Ça va ? Assurées comme moyen d'échange. Voilà comment ça coûte. Supposons que moi je suis PME. Celui-là, il représente le gouvernement. Il y a un autre bon monstre qui est en ligne. Et vous êtes ton premier fournisseur. D'accord ? Et lui, il va payer à mon jeu si j'ai de la chance. Et vous pouvez payer maintenant. Okay ? Qu'est-ce que je fais ? Eh bien, prends mon contrat. J'ai un contrat d'assurance avec une compagnie d'assurance. Et c'est un A plus. Et qui dit que ce monsieur-là, probablement, est un bon crédit. Est-ce que c'est un crédit ? Il vient de sauver le gouvernement.
Il
est
horrible.
Donc, c'est mon crédit. Donc, bien. Alors, cette facture assurée, je l'ai introduite dans un réseau. Le réseau obtient à ce moment-là possession de cette facture assurée. Mais je vous donne, supposons que c'était 100 000 euros, je vous donne 100 000 en réplique. Okay. Ça va ? Bon, notre philosophe. Bon. Les 100 000, je vous paye. Vous avez deux choix. Soit vous voulez des euros tout de suite, et à ce moment-là, vous payez le nombre de jours d'espérance. Vous pouvez sortir. On a un contrat, votre réseau a un contrat avec une banque, que tout le monde peut obtenir des euros. Mais vous payez les frais bancaires, vous payez les intérêts. Okay. Bon. Deuxième choix, vous payez votre fournisseur avec les mains. Okay. Et lui continue. Ça vous coûte bien. Et ça va bien aller. Donc chaque récipiendaire a ces deux options. Ce truc est opérationnel au Brésil et en Uruguay. Et en Uruguay, ils ont participé au pays. De cette monnaie en paiement de taxes et de frais à égalité à la nation. Ça, c'est le simple.
Quelle est la différence avec le factoring ?
Ben, les 100 000 euros, je vais pour vous dans un factoring, combien est-ce que je reçois ? Pas 100 000. Hein. Voilà, 60%. Voilà le problème. Ici, j'ai mes 100 000. Hein. J'ai mes 100 000. Hein. Voilà la différence.
Et fondamentalement, qu'est-ce qui vous permet, c'est la
qu'est-ce qui permet
philosophiquement, mais fondamentalement,
qu'est-ce qui permet quoi
justement d'éviter ces crosses des codes qu'on a dans le factoring que vous n'avez pas ici.
Parce que dans le factoring, c'est se traiter avec une petite entreprise, une PME, qui est ouvrir un dossier, c'est emmerdant, ça coûte du temps. Bon, pour 100 000 euros, ça ne vaut pas la peine.
C'est ça. Donc ici, ce qui permet d'éviter.
Si vous êtes à l'IM, vous pouvez faire du factoring, ça ne va pas vous coûter 60%.
Et ce qui permet d'éviter le coût, donc fondamentalement, c'est que ce sont des sociétés, toutes des PME, qui trouvent un accord entre elles et qui se chargent.
Et les groupes peuvent en faire partie. Hein.
Les groupes peuvent en faire partie.
Finalement, personne ne coûte, ça ne coûte rien à personne. Hein. Lui, le gros patapouf ici. Hein. On n'est pas plus longtemps. Lui, peut continuer à me charger 90 jours, hein. Même 120. Hein.
Oui.
C'est le plus bon problème. Et nous avons en fait une assurance que toute la monnaie créée est backed, est un support d'une facture qui va arriver à maturité dans un an de jour. Dans un an de jour, qu'est-ce qui se passe ? Ben, lui me paye, c'est-à-dire qu'il paye le réseau maintenant. Et vous pouvez, si vous avez encore toujours gardé ces trucs-là pendant ce temps-là, vous pouvez l'avoir sans intérêt. D'accord ? Vous pouvez tout sortir. Je le fais exprès. Je préfère cette solution-ci au pire qui ne fait pas ça. C'est une monnaie complémentaire parallèle qui fonctionne en monnaie parallèle. Il y a deux choix. Les deux monnaies existent.
Non, mais la deuxième remarque, c'est donc la cause de la crise financière, parce qu'elle n'a pas posé de base de la différence entre la quantité de monnaie et l'offre.
définition, je ne joue, je ne paye pas de la monnaie, de rien. J'ai un produit, il a acheté mes produits, hein. Il les a reçus, hein. Il va payer dans un jour.
Mais c'est
nous sommes, la monnaie comptée est supportée par la transaction que nous avons faite. Je n'ai pas créé un milliard de machins.
Non, si on vient de produire un acte de produit sans qu'il y ait vraiment une demande sous-jacente, donc si monsieur stocke une ordre considérable d'avoir une demande.
Ça, c'est son problème. Hein. C'est lui qui va financer hein, son stock. Pas moi.
Le risque va être mutualisé.
Mais non. Sa facture est assurée par le gouvernement.
Ça fait partie de ce système.
Bien sûr.
Donc de là, mon
problème. Quel est le problème?
Le problème, toujours, on reste en tenant que
c'est tout. Ce que j'aime bien dans cette solution-ci, c'est que c'est possible de la présenter sans parler dans les complémentaires. Je peux faire en rire ou je ne parle pas de tout ça, et je vous dis, il y a une résistance énorme. Et il n'y a aucun gouvernement, ni le gouvernement suisse, qui a décidé d'accepter les biens en paiement de taxes. Ça, ils acceptent en paiement de taxes. Ça m'intéresse. C'est pour ça que ça. On va pas cet effet. Si vous avez, je dis simplement, pourquoi ceci marche. Pas une idée. C'est opérationnel. Si vous voulez voir, allez en Uruguay, ça va voir ça fonctionne. Ça fonctionne. Le software est disponible en open source. Vous pouvez faire le download aujourd'hui, vous pouvez le tester, vous pouvez essayer. La compagnie d'assurance, dans le cas de l'Uruguay, vous avez des chiffres, ça la coûte 1%. Pourquoi? Parce que les factures que je vais assurer sont celles qui vont être longues. Les longues sont par définition celles des gros. Le gouvernement uruguayen, le meilleur qui est dans l'Uruguay, ils vont payer leurs factures. Ils ne vont peut-être pas payer le manjo, ça c'est le problème. Et là, ils vont avoir la taxe d'intérêt. Voilà. Ça coûte 1%. C'est-à-dire que le prix du cours, on parlait, c'est 30% minimum.
Ce que je veux dire, c'est que c'est de garder ces discussions pour la deuxième partie.
Oui, parce que sinon, enfin, on a presque fini. Voilà le mécanisme tel qu'il fonctionne de ces trois cubes. Hein? Vous avez donc une assurance qui injecte dans le réseau une garantie sur une facture qui est générée par un de ses acteurs, hein? Un des producteurs, disons, avec un service public. La facture de la service est assurée ici, elle ne circule dans le système jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui veut entrer, veut sortir du système en obtenir des euros et alors il va à la banque. Okay? Avec ce qui s'est passé à l'Uruguay, la seule différence entre les deux dessins, c'est que ici vous avez les flèches qui vont dans les deux sens, les taxes sont aussi payables dans le fond.
Ça, je répète, c'est le 5 grade, double massin.
Ça, c'est la seule décision politique que nous demandons, en fait. Et en fait, c'est un peu logique aussi, parce que ça fait des activités, que tout le monde doit parler sur le payeur de taxes. Ceci, on circule ici dedans. Tant qu'on reste dedans, on n'a pas besoin de banque. Mais dès qu'on sort, qu'on entre, on a besoin de banque. Attention, la facture que j'ai faite est en trop bas. Continuons parce que sinon.
Vous êtes dans la titrisation de facture, de ce qu'on vient de
connaître. Oui, je suis dans la titrisation assurée de facture. Et je utilise la facture titrée comme monnaie.
Donc c'est du CDO.
Sauf que le CDO qu'on a fait n'est pas fait comme ça. Hein. D'accord? Bon, c'est pas du CDO de n'importe qui. Hein. Bon, donc. Oui, c'est une innovation monétaire. Une innovation financière est suspecte. C'est là, allez voir. Ok. Le marché potentiel en Suisse est estimé à l'ordre de 10 à 15 à 50 millions d'euros par an qui sont disponibles maintenant. Voilà, Suisse, lui. D'autres. Je pense que nous allons voir dans la prochaine décennie plus de changements dans le domaine monétaire que nous avons connu dans notre vie. Tous ne vont pas être agréables. D'accord ? Je pense qu'il y a aussi une autre société. Il y a beaucoup de choses qui se sont en train de casser la gueule en même temps. Tous nos systèmes ont été optimisés pour l'ère industrielle. Éducation, médecine, transport, économie. Tous ces trucs-là ont été optimisés pour l'ère industrielle et tous ces trucs-là vont être repensés. Je pense qu'en introduisant ces genre d'outils-ci, on permet de faire beaucoup plus de flexibilité pour résoudre le problème que d'espérer que grand papa va passer le problème de nous. Il faut une mondialisation et une réalisation simultanées. Ce ne sont pas mutuellement exclusives. On les a vus comme mutuellement exclusives. On doit activer la proposition que j'ai, c'est la vision de l'Union européenne. L'Union européenne fournit un tiers des garanties à toutes les régions. Il fournit un deuxième tiers de garantie et le troisième tiers fourni par la compagnie d'assurance. Des garanties uniquement. Pas de financement. Vous avez ce que c'est. D'accord ? Quoique, ça, c'est ce qui va se passer lorsqu'on essaie de tout faire avec les gens. Ça ne va pas tenir la route. Je pense qu'il y a un autre choix. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai ici un bouquin qui est sorti en français, pour ceux qui s'amusent, sur les monnaies régionales, qui est une sous-partie de ce que je vais parler du sujet, c'est davantage de la géopolitique. C'est un peu dans la librairie ici. Je n'ai pas mentionné là-dessus, mais je le fasse. Mon site internet a toutes les références techniques, les articles d'origine mathématique, ceux qui veulent voir la courbe, tout ça. Tout ça se trouve là. Voilà, je suis à votre disposition.
Oui, peut-être avant la pause et avant d'être un petit café, je vous propose de préparer rapidement les grandes questions dont on voudrait débattre pour la suite. Et donc, je vous propose peut-être de nous contenir pour pouvoir commencer le débat. Je pense qu'il y avait des questions sur les opportunités des monnaies complémentaires dans les liens entre entreprises. Donc, je pense que
c'était... C'est un peu ça, non?
Oui, tout à fait. Mais peut-être de le discuter de manière plus approfondie, si vous pensez qu'effectivement, ça vous intéresse.
On va laisser venir la question.
Oui, mais
je vais un peu de structurer maintenant, de prendre un peu les grandes questions pour voir un peu comment on peut organiser le débat après la pause.
Oui, mais en fait, j'ai participé à la création de 4 monnaies.
De quoi ?
De 4 monnaies, ouais. De la Croix, la Réunion, la France.
D'ailleurs,
c'est genre, c'est dans les réseaux. Et la question, comment ils jouent le monde de vote, ça colle tout à fait avec la définition de la Croix. Et ce qui se passe, c'est qu'on a toujours une problématique d'interaction pour avoir assez. Et il y a toute une question, parce qu'on est des bricoleurs, il y a toute une question de gestion de ça, de la vie.
Vous pouvez me répondre maintenant.
Non,
des conseils de gestion.
Gestion des selles.
Oui, parce que c'est.
Ok, Stéphanie.
Ici, c'est la question, c'est de savoir quand on est PME. On est convaincu par ce système parce que de la littérature là-dessus, ça rentre dans notre manière de faire. Comment est-ce qu'on fait concrètement? À qui est-ce qu'on peut s'adresser
pour démarrer?
D'accord. Oui. Pierre.
Oui, je voudrais qu'on aborde le problème de la taxation, de la prélèvement de l'impôt et de manière alternative.
Oui, moi, quand ça n'est pas du temps, parce que quand c'est du temps, j'arrive bien à le comprendre, quand c'est pas du temps, quand c'est un bien marchand, quand c'est, je veux acheter, je sais pas, une voiture, je veux acheter...
Mais c'est quoi, c'est ça, hein? C'est quoi, on parlait, c'est tout à fait ça. C'est purement marchand, hein? C'est même entre PME, c'est pas un truc pour individu.
Oui, mais si je veux acheter une voiture, par exemple, qui n'est pas dans C3, qui n'accepte pas le C3,
il y a des voitures qui se sont vendues en selle. Hein? Pas des nouvelles. Hein? Le vire se fait très couramment en voiture. Hein?
pas de problème. Hein.
Ouais, les distributeurs de Mayotte. On va finir la question par la pause. D'autres questions.
Échange marchand.
Moi, j'ai une question qui vient un petit peu en amont de la question des monnaies alternatives, qui se rapporte au début de votre exposé sur l'instabilité du système financier. Parce que si on se dit que l'instabilité financière, la bulle, c'est le fait.
On ne voit pas. Le fait prenez un que... bleu, perle.
Oui.
Il y avait d'autres couleurs. Oh, pas
le fait que la croissance des actifs financiers a été sans commune mesure avec la croissance des actifs réels. Hein, et donc, ce problème-là, me semble-t-il, est-ce qu'il va être résolu par les monnaies alternatives ou est-ce qu'on va rester avec une instabilité alternative?
Est-ce que l'instabilité est rémanente du système?
Voilà, et alors ça pose, ça amène à la question sur la nature de l'argent, parce que si vous dites l'argent, c'est, on se met d'accord sur un moyen d'échange, pourquoi à un moment donné ces moyens d'échange doivent croître de façon incommensurable? Qu'est-ce qui, dans la nature de l'argent, fait qu'il y a une croissance incommensurable avec la croissance des actifs?
C'est la question de
Mais juste par rapport à la nature humaine, la nature de l'argent aussi pour revenir au début, c'est, je me demande si justement la propension de cette nouvelle façon de faire n'implique pas justement un changement fondamental de paradigme, de croyance.
Paradigme
de
monétaire.
Humain,
oui, paradigme
nature humaine.
Paradigme monétaire.
Est-ce que l'acceptation même du système implique ou nécessite
un changement de paradigme? Oui. Et la réponse est oui.
Question.
Ça, c'est clair.
Vous avez parlé de comment intégrez-vous, par exemple, dans le time dollar, la pénibilité du travail, qui, dont en 60 minutes, on peut faire des travaux, un massage qui est relativement agréable, mais par contre, je ne sais pas, moi, pêcher ou creuser une piscine, ce n'est pas tout à fait le même type de travail, même si ça prend le même temps. Comment est-ce que vous intégrez ces deux dimensions?
Ok, mettez ça. Comment tu veux ça?
J'ai parlé de pénibilité, ça pourrait.
C'est la valorisation, ça
valeur différente de temps.
Valeur
de temps différent.
D'autres questions?
Oui, moi aussi.
C'est oui, j'ai compris.
C'est la question qui a été posée, la stabilité, la résolution de la stabilité.
Ici, il y a une question aussi.
Oui,
ici.
Mais moi, je reviens aussi sur les monnaies d'apprentissage.
Oui, monnaies d'apprentissage.
Parce qu'en fait, il y a dans la monnaie, c'est retrouver en fait la richesse de l'intérêt de la monnaie, c'est-à-dire à la fois l'intention, les compétences et les. Donc, on n'a pas que les compétences et les connaissances à échanger, on a aussi les intérêts et les passions qui font des projets. Et nous, on est dans un projet autour de ça, et moi j'aimerais bien avoir d'autres exemples qui en existent de monnaie d'apprentissage.
Bon, voilà.
Je crois qu'on a déjà pas mal entendu l'idée, monsieur.
Oui, simplement, j'ai vu un exemple là où il faut mettre un timbre de 2%, parce que c'est pas un
demeurage.
Un demeurage, c'est un intérêt négatif.
C'est un intérêt négatif. Ce n'est pas la même chose que l'inflation.
Non. Il y a un moyen d'expliquer
un peu comment. Bon, ben on n'a pas parlé. Il faudrait un marqueur qui marche.
Est-ce qu'on a parlé des relations entre entreprises dans le cadre des données complémentaires? Est-ce que c'est des choses qui se font aussi à l'intérieur des entreprises? Est-ce qu'on peut imaginer des valorisations de travail non concurrentielles?
Usage interne, monnaie complémentaire.
On parle de résilience. Je crois que la crise va éclater. On va avoir une crise terrible. Et donc, en quoi ces systèmes vont en fait pouvoir résister à la crise?
C'est un peu la question.
D'accord. Ok, parfait. Je vous propose qu'on prenne un quart d'heure de pause. Il y a des cafés, du café des croissants et on reprend après.
Bien. Alors, tu as un travail, tu lances.
Bon, et voilà, donc on a un peu structuré les différentes questions. On va commencer donc par la question relative au paradigme monétaire. Donc, plus précisément, c'était
la question de Rodolphe.
Je crois que j'ai enlevé ma voix.
Oui, mais peut-être donc au niveau de la première question qu'on avait sur le paradigme monétaire, c'était la question de Rodolphe, si vous l'avez vu. La question était un petit peu de voir est-ce que les monnaies complémentaires ouvrent la porte à un nouveau paradigme en termes monétaires. Est-ce que c'est quelque chose qui vient conçu du système, ou c'est quelque chose qui bascule les règles du jeu dans le système? Et alors, quels sont les changements de règles du jeu qui sont appliqués?
D'accord. Je vais répondre à ça avec quatre slides. Mais simplement avant que je quitte celle-là, je signale, si vous voulez contacter le meilleur moyen, c'est par les mails, comme ça je suis toujours disponible.
Et on a, les slides sont sur le site Philo et Management, parce que
est-ce qu'on peut mettre vos slides sur le site, soit qu'elles soient accessibles via votre site ou sur le site de Philosophie et Management? Qu'est-ce que vous préférez?
Normalement, je ne le fais pas.
Oui, mais...
Parce que sinon, je vais recommencer à créer une présentation. Là, je commence à parler de façon. Maintenant, je vais essayer de prendre ça et tout.
D'accord. Mais ça, on va s'arranger.
Bien. En fait, la question du paradigme, la manière de le poser, que je propose de le poser, est à l'inverse. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas? Le paradigme, il faut en fait sortir du paradigme pour voir qu'il y a un problème de paradigme. Tant qu'on est dans le système, on ne voit pas qu'il y a un problème. On ne voit pas, j'ai défini le paradigme comme étant l'idée d'un monopole d'une monnaie de type dette bancaire, est trouvé totalement universellement normal. Quel que soit le régime, l'histoire, le communiste qu'on fait, le capitaliste qu'on fait, ça nous change un petit peu le truc. Voilà l'idée. D'où vient ce truc? Alors, il y a première chose que je vous dirais, c'est qu'il y a en fait des intérêts financiers derrière. Okay? Nous ne sommes pas dans un régime. Nous ne sommes plus dans une démocratie issue de la bourgeoisie, nous sommes dans une démocratie. L'extrême, c'est les États-Unis. Aux États-Unis, actuellement, il n'y a pas une banque de place. On part en fait dans l'intérêt d'un groupe d'entreprise qui a financé le président. Voilà. Le truc qui est en train de se faire pour la santé, c'est bon, ce sont les pharmacies. On ne va pas toucher au prix des pharmacies, on va ajouter les clients. Pas bien. Bon, on peut discuter qui va payer les structures qui sont nécessaires. Et il y a une loi du classique dans le domaine monétaire. C'est la chose la plus raffinée dans le domaine, c'est quand même par conscience qui dit ça. C'est qui ils sont. Ce ne sont pas les banques. Les banques centrales ont comme agenda, comme but d'existence, le statu quo de l'histoire. Et dès qu'on parle de monnaie, on va voir chez les spécialistes qui sont les banques centrales. C'est comme aller chez, je vais vous demander, aller convaincre Bill Gates que vos conditions, c'est une bonne idée. Il y aura un tas de raisons pour que ce soit une bonne idée. Ce sera le dernier type à être convaincu. Il vient d'être convaincu. Parce qu'il y a l'impression de marché qui est parti. Mais en attendant, il a dit non. Alors, deuxième truc, c'est, comme ce truc-là est en anglais, l'habitude. Vous direz que nous sommes depuis à peu près 750 ans ici. Je vais vous parler d'histoire. Polarisation idéologique dans la guerre froide et finalement un tableau académique. Donc voilà les quatre trucs qui s'accumulent pour faire du fait que le paradigme monétaire est intouchable et est un. Il n'est même pas visible comme paradigme. La convergence. Alors voilà. Commençons par ce principe. Je remarque très souvent que les femmes comprennent beaucoup plus facilement ce que je raconte que les hommes. Et je ne pense pas que ce soit mon charme latin ou autre chose. Je crois que c'est autre chose. Ils comprennent très vite.
Oui, mais ça ne change pas. Et je peux d'ailleurs, hein, je crois qu'on en a parlé, mais il ne faut pas très vite. Et il y a une raison. Il y a une raison. En fait, je vais vous l'expliquer. Vous avez deux types d'histoires. Nous parlons maintenant de lire, pas de 5000 ans d'histoire humanitaire documentée, on peut aller à 7000 et des 1000 avec un peu d'effort. Toutes les sociétés patriarcales ont le même système monétaire que nous. Fondamental. Okay. Toutes les sociétés matrifocales, j'utilise le mot matrifocale, qui n'est pas la même chose que matriarcale. Une société matriarcale ne serait une société dans laquelle le mâle n'a qu'un rôle de procréation. Ça n'a existé que dans l'imaginaire des Grecs, sous la forme des Amazones, et ça n'a jamais existé, on n'a jamais trouvé un endroit archéologique ou autre dans lequel il y avait des Amazones. Ça n'a pas existé. Les sociétés matrifocales sont des sociétés dans lesquelles les valeurs féminines sont honorées. Et le test le plus simple, c'est de savoir quelle est la vision du divin. Dites-moi qui vous prévise, comment vous croyez que se passe au ciel et vous direz que vous pensez qu'il va se passer sur la terre. Ok ? Donc, dans les sociétés patriarcales, ben, le divin, on sait ce que c'est. Hein. C'est la petite voiture sur le ciel, la visible, qui sait tout. Et la fait tout seul. On a fait un mystère de la Trinité, c'est la simple raison qu'on a évacué le féminin à ce point-là. Pourquoi est-ce que la Trinité. Pourquoi est-ce que la Trinité est un mystère? Écoutez, c'est très simple. Hein, bon, vous avez une relation. Okay, cette relation est invisible. Pour la réalité. Mais si vous avez un enfant, c'est la manifestation de la relation. On est bien d'accord. On est tous nés comme ça. Bon. Évidemment, quand vous avez une Trinité dans laquelle tout le monde est masculin, c'est un problème. Ça devient mystérieux. Ça devient très mystérieux. Hein. Ouais, Jésus, le Fils de Dieu, est le Fils de Dieu avec une colombe. Hein. On peut le faire.
Mais une colombe, c'est féminin.
Oui. Oui. Mais on a fait un Esprit Saint. Hein. On a vraiment évacué la chose. Bon. Et la mère cosmique est représentée par la mère d'Église, hein, dans laquelle il y avait des hommes. On peut le faire. On a poussé le bouchon. Hein. Bon. Bien. Alors. Toutes les sociétés matriarcales ont un monopole d'un système monétaire, avec des taux d'intérêt très élevés. La Chine, Mésopotamie, Sumer, Babylone, les Grecs, les Romains et nous. De la même sens. Il y a eu des hiatus, il y a des endroits, il y a des poches, entre autres en Égypte et chez nous, pendant la période du 10e ou 13e siècle. La période des cathédrales. Et tout était dédié à une femme. Pour le faire aussi, curieuse. Tout à coup, construire des grands machins, pas pour le pape, pas pour le père, pas pour le fils, pour Marie. Et cette période dans laquelle est apparu le monde d'histoire, dans laquelle les droits de femme étaient les plus libres jusque dans les dernières années, okay, il y a eu une tentative d'émergence de valeurs féminines et qui a été accompagnée d'un système monétaire différent. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un monopole de monnaie avec un taux d'intérêt positif? C'est très bon pour créer une évolution industrielle. Okay. Donc, moi, je prétends que sans cette monnaie, on ne va pas faire la révolution. Pourquoi on ne fait pas une révolution industrielle dans un garage? On ne fait pas une acierie dans un garage. C'est pas une acierie n'est pas un garage qui est rendu. C'est autre chose. Un train n'est pas un peu. Dans un garage, dans un jardin, pas dans un village. Il faut des trucs, des grandes choses. Il faut des concentrations monétaires. Et c'est ça que ça fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça fonctionne. En fait, cette monnaie est en fait un mécanisme de concentration de ressources qui ont l'argent, juste l'argent, par définition. Hein, vous comprenez pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est que l'intérêt? C'est le mécanisme de pompage de ceux qui ont parti, qui ont déjà le coup. C'est ça. Bon. Je dis ça de façon totalement objective et mécanique. Hein. Ça a de bons aspects et de mauvais aspects. Hein. Un des aspects bons, ça a été la révolution industrielle. On vit à un niveau comme seuls les rois vivaient il y a un siècle et demi. Ça provoque aussi le boom and bust, donc le cycle. Ça provoque le court-termisme, parce que toute monnaie avec un taux d'intérêt positif escompte le futur. Et c'est de détruire la communauté. C'est une monnaie qui est incompatible avec la relation communautaire. Incompatible avec le don, ethnique, sociologiquement, dans le terme de soutenance. Et ce qui se intéresse. Bon. Tandis que les sociétés matérielles locales, qu'est-ce que vous pouvez dire, ce qu'ils font? Pardon?
Elle crée des relations.
Elle crée des relations, mais dans le monnaie monétaire, qu'est-ce
qu'il y a? Il y a le don,
il y a
le don.
Quoi?
Le don.
Il y a le don. Le don. Alors, en fait, voilà ce qui se passe. Vous approchez. Vous approchez. Mais vous voulez dire avec. Il y a en fait un double système monétaire. Il y a un système monétaire pour faire du commerce avec les gens qu'on ne connaît pas, à longue distance, qui sont typiquement les monnaies d'ailleurs des sociétés papier. Dans le cas égyptien, c'était d'abord avec la Mésopotamie, des anneaux d'or, qu'on trouve dans le British Museum. Après, les pièces de monnaie grecque, c'était les pièces de monnaie grecque qui étaient circulaires en Égypte, pour le commerce. Les Égyptiens ne faisaient pas la monnaie. Pas sous ce forme-là. Ils utilisaient la monnaie grecque. Bon. Il y a une deuxième type de monnaie, et c'est là où c'est bien intéressant, qui est créé exactement par les règles opposées de l'autre. Cette monnaie-là est créée par un monopole top-down, okay, et c'est enforced, c'est obligatoire, on n'a pas le choix. C'est pour militairement. J'ai utilisé cette monnaie pour le futur. C'était littéralement la conversation. Dans le système matrifocal, la deuxième monnaie, c'est l'opposé. C'est une monnaie qu'on crée nous-mêmes, les utilisateurs, dans la communauté, sans intérêt, et au niveau plus sophistiqué, avec le mirage. On y reviendra. C'est une des questions qu'on aura dans le petit timbre dont on parlait de l'autre. C'est le King Carlos. Okay? C'est donc une autre dynamique. Et fondamentalement, ce qu'on a en question, c'est le patriarcat. Le paradigme, le premier paradigme que je frappe, c'est cette idée-là, ce système de valeurs-là, qui, au mieux, a des points positifs et des points négatifs. Hein. On a vu au bout du rouleau. La crise écologique, la crise écologique est une conséquence du patriarcat, hein, du système de valeurs patriarcal.
Pourquoi dites-vous que l'Égypte ancienne était matrifocale?
Était matrifocale.
L'Égypte?
Oui. Pardon. Et bien, le deuxième système monétaire, c'était la seule étude qui est peut-être normalement. S'appelle le Colombian System, et c'est le. Il y avait une monnaie de. Vous vous souvenez de... Alors, vous pouvez poser une question. Combien de temps ce projet?
Écoutez, on a jusqu'à midi et demi.
Et quelle heure est-il?
11h10.
Donc, le temps. Parce que je veux savoir si.
Oui.
Si je peux répondre à des questions, disons.
Oui.
En fait, vous connaissez l'histoire de Joseph, quand même. Donc, Joseph, vendu par ses frères pour 20 pièces d'or, d'argent à des esclavagistes égyptiens, il termine en Égypte. Il interprète le rêve du pharaon à propos des vaches maigres, des vaches grasses, des vaches basses. Tout le monde est tellement impressionné qu'on l'a nommé grand vizir. Okay? Voilà l'histoire. Le pauvre petit juif qui vient dans un pays étranger. Okay? Une métaphore tout à fait classique en son genre. Il y a quelque chose qui n'était pas là-haut. Parce que l'idée que les Égyptiens ne connaissaient pas le stockage de nourriture est une idiotie. Parce que toute société agricole doit accumuler de la nourriture pour les graines de l'année prochaine. Ça fait partie. La révolution agricole, c'était ça. Et dans tous les territoires, il y a des dépôts de nourriture. Par contre, il y a un hibrou, qui est le terme égyptien pour un hébreu, qui est devenu grand vizir. Okay? Lors de la 6e dynastie, assez tôt. Okay? Et il a un autre nom, okay? Un nom égyptien. Il n'a pas Joseph, hein, mais il est connu dans les archives égyptiennes. D'après moi, ce qu'on ne dit pas, ni dans la Bible, ni dans le texte que j'ai vu d'Égypte, c'est ce que le type a inventé la deuxième monnaie. Voilà comment ça fonctionne. Supposons que je suis un fermier dans le delta du Nil. Et j'amène mes 10 sacs de blé que j'ai produits au-delà de ce que j'ai besoin pour manger moi-même, au temps. Parce que c'était au temps que ça se faisait. Et je reçois ce qu'on appelle la tête, la technique post-tracking, c'est-à-dire un morceau de poitrine, qui était recyclé comme un document d'écriture sur lequel on écrivait, j'ai reçu aujourd'hui 10 sacs de blé avec mon Bernard, et j'étais, disons, scribe. Au temple de Hatshepsut, Tachou, machin. Voilà. Je vous donne ça. J'ai donc mon reçu. Avec ça, je sors et je vous achète un stupage. Je vous paye pour planter mon. Voilà, c'était ma monnaie. C'était ma monnaie. C'est vous deux. Ostracon. Il y a un village, il tient dans lequel vous trouvez 2 700 000 d'Ostracon. Ça va? Prenez-vous. C'était totalement commun. Okay. Ça n'a pas encore été publié. Okay. Ils n'ont pas fait l'inventaire, ils n'ont pas retranscrit tout ce qui est dessus. Parce que c'est très embêtant, ça dirait très intéressant. Monsieur le dit à côté, l'autre 15, l'autre 12, de pas dessus. Ce sont des reçus. L'aspect du système vient lorsque on comprend ce qui se passe avec cette chose. C'est pour ça que je le garde pendant ma poche pendant un an. Et je reviens dans le temple chez vous. Et je dis, voilà, je vais vous mettre 10 sacs de blé. Vous dites, Pierre, va lui chercher ses 9 sacs. Mais ça dit 10, là. Oui, oui. Mais Pierre, votre gardien, il mange bien. Notre scribe aussi. Et il y a des chats, des rats et des souris, marqués, toutes les chats, tous les chats sont des dents. Et donc, on perd les 10 sacs sur les 9 sacs. Notez que ce n'est pas de l'inflation. Un sac de blé reste un sac de blé. Mais un reçu de 10 sacs de blé est devenu 9 sacs de blé. On a un système de démarrage. Qu'est-ce qui va se passer avec ces monnaies? Personne ne va la publier. Personne ne va la publier. Elle va circuler tout le temps. C'est pour ça que l'Égypte était le premier à venir l'ancien monde. Et il a été, et il a resté, jusqu'à l'invasion des Romains, pour supprimer l'ancien système monétaire pour imposer le monopole. Concentration de richesse, puis le développement et le soutien. Donc voilà comment ça fonctionnait en Égypte. Maintenant, l'Égypte était une société matrifocale. Je suggère, je vais citer un texte d'un égyptologue allemand, s'il fallait être né femme dans l'ancien monde, le seul pays où c'était convenable, c'était dans l'Égypte. Ils avaient des droits identiques aux hommes. Il y avait 4 pharaons qui sont des femmes, qui étaient des hommes. Qui était impensable chez les Grecs et les Romains, le grand patron d'une femme, impensable. Il y avait des rôles pour les hommes et des hommes pour les femmes. Le textile, par exemple, c'était pour les femmes. Le blé, c'était pour les hommes. Chacun avait son secteur d'activité, mais il y avait un respect de valeurs féminines. Et la clé, toujours, regarder à quel est la rente dans le ciel, qu'est-ce qui se passe, la grande patronne, c'est ici. Le pauvre imbécile d'Osiris, qui se fait qu'à le coincer chaque fois, et que Osiris vient sauver. Ça, la mythologie féminine. Le rôle du féminin, on trouve une société qui a une demi système. Voilà.
Est-ce que je comprends aussi dans ton histoire, c'est dans le la taille
des femmes. Le niveau de vie, de la personne la plus modeste, en Égypte et au Moyen-Âge, c'était des exceptions. Ce à quoi fait allusion, bon, c'est une autre histoire, à Londres, au musée de la ville de Londres, au musée de la ville de Londres, ils ont rassemblé les corps qu'ils ont ramassés en faisant les tubes, le métro, partout dans la ville. C'est une Londres est une ville qui est habitée de l'époque préhistorique. Bon, c'était une grande courbe d'ampleur, il y avait des gens là depuis toujours, il y a eu des Romains, il y a eu pas, mais c'est la même race, pas des On est tous plus grands que nos parents. Okay. Donc, nos grands-parents. Et on a réduit ça au fait qu'on est mieux nourri et qu'on a été dans une période assez, disons, opulente. Hein, s'il fallait être comme un modeste citoyen belge, ce n'était pas une mauvaise période de 250 années. Bon. On a eu de la chance, disons comme ça. Eh bien, ce qu'ils ont fait dans la ville de Londres, c'est qu'ils ont rassemblé tous les autres, des citoyens ordinaires, parce que les rois, eux, sont dans la tombe, dans la Westminster, mais les types ordinaires, d'après l'État. La question qui se pose, quand est-ce que les femmes étaient les plus grandes ? Les plus bas, c'était la période de la période de la période. 400 pour les hommes ont rattrapé les Saxons du 12e siècle dans les 30 dernières années, la dernière génération. Il y avait un double système monétaire à Londres au 12e siècle. Ça va? Bon. Ça provoquait une stabilité économique pendant des siècles. Il n'y a pas de boom et bust dans l'histoire égyptienne, il n'y a pas de boom et bust au 10e ou 13e siècle. Le premier grand crash est à la fin du 13e siècle, quand le monopole monétaire a été imposé par Philippe, d'abord par Saint-Louis. Ok, on a certifié. Il y a lui qui a imposé le monopole. Bon, donc il y a deux types de sociétés, deux types de valeurs, et les systèmes monétaires supportent ces deux systèmes. Et nous sortons de celui-là. Nous n'avons plus eu de société qui honore des valeurs féminines depuis 750. Le système monétaire que nous sommes familiers a été figé au 18e siècle. Okay. Vraiment, on a créé le banque centrale du type de valeur maintenant, dont le but c'est de garder le statu quo. Okay. Donc, on a réfrigéré le système de valeur du 19e siècle. Parce que c'est intéressant pour les gens qui ont le pouvoir. D'accord ? Une société patriarcale veut dire qu'il y a un type là au sommet qui est bien ça.
On a fait des solutions pour moi.
D'accord, oui. Vous savez, je vais vous citer Henry Ford, le premier, le fondateur de la dynastie. Il a dit, si les Américains comprenaient la monnaie et la banque, il y aurait une révolution dans leur vie. Il a raison. Et la raison pour laquelle il y a eu, c'est qu'ils n'ont toujours pas compris. Ça va ? Donc ça marche. Le paradigme marche. Avant la conversation aujourd'hui, j'aurais dû vous poser la question, combien de vous en valent pour gagner un monopole monétaire ? Évidemment, c'est vous parlez. Hein ? Bon, donc ça c'est la première couche. Deuxième couche. On vient de sortir de 50 ans de guerre. Principalement de l'idéologie qui a affecté tout dans mon économie et tout dans le domaine sociologique. Bon. Qu'est-ce que les deux doctrines en présence, le communisme et le capitalisme, donc le système soviétique et le système américain, pour réaliser les données d'identité. Bien voilà, communisme, public ownership, propriété publique, toutes les initiatives sont gouvernementales et magnifiques. L'autre côté, c'est privé, initiative privée, système de marché. Bien, ce qui se passe, il y a des bibliothèques, des dizaines de milliers de livres sur ce qui se passe ces deux. Des bibliothèques entières, des écoles entières. Dans ce truc-ci, on a 4-5 grandes écoles économiques, keynésiennes, keynésiennes, les chiens, tous sont là. Hein. Ce sont des sous-ensembles. Et même ici, hein, les trotskistes, les machins, les Luxembourg, bref. Bien. On a créé des tas de choses. Par contre, ce dont on ne parle pas, d'aucun des deux, c'est ce qu'ils ont en commun. Ils ont en commun d'être des patriarcats et de trouver normal, à mon école, le système monétaire de type que nous avons. La seule différence, c'est qu'ici, vous avez à voir les banques qui sont propriété publique. Tandis qu'ici, elles sont privées. Mais le système est bien. Pour des copies.
En
fait, le capitalisme, c'est...
C'est la privatisation de la création monétaire.
Oui, ou l'exploitation de l'homme par l'homme.
Et le communisme... Mais des tas d'autres objectifs là-dessus.
Mais le communisme,
c'est l'inverse. Bien. Ce qui est intéressant, c'est que, bien, on a une tâche aveugle sur ce qui est commun. Ça va? Parce que personne ne le voit. Donc, ça, c'est la deuxième poche. On me suit? Alors, qui, combien d'entre vous ont des cours d'économie? Combien d'entre vous ont entendu parler de l'école chartaliste? Chartaliste.
Mais mon prof était à Caen. Hein.
Bon.
C'est ce que je vois. Hein.
Bon. Maintenant, je vais vous décrire l'école chartaliste, elle n'est pas l'heure. Elle est active, il y a des publications académiques récentes. Et nous ont, ils démontrent, il y a pour moi un des meilleurs titres dans Serain Gray, et il y en a d'autres. Understanding Modern Money, c'est pour ceux qui veulent la référence. Serain Gray, là, le premier. Bon. Ce qu'il dit, c'est ceci. Actuellement, depuis la, enfin, la manière dont les gouvernements et le milieu économique, les écoles économiques et le gouvernement voient le rôle du gouvernement date de l'ère du standard quo. En supposant qu'on appliquait le standard quo, qui n'a jamais été comme ça. Là, c'était valable. Depuis lors, c'est plus valable. Depuis les monnaies flottantes, c'est certainement plus valable. En traduction claire, tout ce que nos gouvernements sont en train de faire, c'est du bidon. Ce n'est pas nécessaire. Okay? Il n'est pas nécessaire d'avoir des taxes pour obtenir des revenus pour le gouvernement. C'est plutôt beau, non? Et il n'est pas nécessaire d'avoir des émettre des obligations d'État pour financer son ne pas parvenir à un revenu. Ce n'est pas nécessaire. C'est du bidon. C'est plutôt beau, non?
Oui, surtout quand on est beau.
Bon. Okay. Et je répète, de nouveau, on est en train de jouer ce jeu en Chine aussi bien qu'en Chine. Hein. Bon. Maintenant, je peux aussi vous dire. Eh bien, en fait, ce dont il parle, c'est ceci. Le gouvernement, en fait, on nationalise la création monétaire. Donc, le gouvernement émet en la dépensant et la récupère. En taxant, en obligeant tout le monde à l'accepter, en lui prenant des taxes. Et les banques deviennent des brokers. C'est-à-dire, ce que la plupart des gens pensent qu'ils sont, c'est-à-dire que quand vous avez la banque, vous en faites de l'argent qui a été déposé par quelqu'un d'autre. C'est ce que les gens pensent. Ils ne pensent pas que l'argent crée. Bon. Donc, bien. Évidemment, ça change tout. Et comme ce n'est pas très populaire dans le secteur financier, cette idée de l'école chartaliste n'a absolument pas. L'école est exilée dans l'université de Missouri et Kansas City. Il y a 2000 miles de distance de Washington et 250 millions de miles pour qu'on ait accès. Voilà. L'école de Missouri, l'université de Missouri et Kansas City joue le rôle de la Sibérie dans le système soviétique. On met là par quelqu'un dont on ne peut entendre parler. Ça va ? Et ils peuvent s'amuser entre eux tant qu'ils ne font pas de bruit. Qu'on entend jusqu'ici. Ça va? Donc voilà, on en est. C'est plutôt gros, non? Qu'on en sache pas ça. Qu'on dise même pas que ça, c'est une possibilité. Ok? Bon. Moi, je ne suis pas chartaliste, je vous le dis tout de suite, parce que pour moi, c'est remplacer le conducteur de la voiture par un autre conducteur. Ok? Donc ça change pour moi. Donc je ne suis pas d'accord avec eux, mais pour une autre raison. Mais je vous donne l'ampleur du tabou. Hein. Aucun d'entre vous n'a pu avoir un doctorat. Hein. En histoire économique, vous allez rater celui-là. C'est étonnant. On peut assurer l'emploi à 100% d'une personne capable et disposée à travailler pour avoir un emploi. Et je peux le faire sans inflation. C'est ce qu'il démontre. Et je n'ai eu aucune
parce que ça met en question le statut des banques. Voilà. Donc le gouvernement crée maintenant la monnaie. Je dirais une dernière chose. Tiens, celui qui a 6 prix Nobel, hein, il y en a 5 plus 1. Il y a le 5 éthique, il y a le 5e qui est économique. Qui connaît la différence avec le 6e dans l'économie des autres? À part le fait qu'ils ont chronologiquement différent. Comment?
Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je veux dire, c'est un autre.
Et c'est une des différences a été créée après. Ça date de 1965.
Le nom n'est pas tellement
le fondateur Nobel, il a fondé l'Islam. C'est un juriste suédois.
Voilà. Pardon ?
C'est un juriste suédois.
Oui, vous vous approchez du trésor. Non, non.
Ce n'est pas ça.
C'est plus subtil que ça.
Ils ne sont pas financés.
Bon, je vous signale que ce prix est délivré par le roi en smoking avec le monde exactement comme les impôts. Hein? Il y a une petite différence. Le titre officiel, c'est le Riksbank Prize for in honor of Alfred Nobel. C'est le prix de la Banque Centrale Suédoise en honneur d'Alfred Nobel. Bon. Et la décision est prise par le comité de direction de la Banque Centrale de Suède. Je peux vous dire une conversation que j'ai conclue, hein, qui était l'année passée, à Séoul. Okay. Moi, je lui ai proposé mes trucs, et il a dit, ah, il faut. On t'a pas dit. J'ai dit, quoi? À MIT. Tu peux toucher à tout sauf le système monétaire. Tu peux toucher à tout sauf le système monétaire. Parce que là, tu fais un truc. Tu termines à Missouri. et tu termines à Missouri et il ne faut même pas sentir qu'il y a un minimum à l'horizon. Donc on a pas là. Never touch the money system. Never touch the money system. Donc il y a un tabou parfaitement resté. Donc le fait que tout le paradigme est bien défendu. D'accord?
Pour moi, c'est Castro de la page. Castro aurait pu l'appliquer.
Castro est un patriarcat. Il est prisonnier du premier système ou du système soviétique. Hein? Retournez ici. Hein? Vous avez beaucoup. La monnaie. Tout le monde aurait pu le créer. On peut le créer ici aussi. Ce n'est pas question de pouvoir le créer. Là, c'est un double set. Société matrifocale. Qu'est-ce qui est allé à Bali, ça? Bon, bien. Qu'est-ce que vous avez remarqué de différent à Bali comparativement à Bruxelles?
C'est bon.
Non, c'est vous qui avez fait le référent à Bali.
Quand j'y suis allé, je connaissais pas l'histoire.
Non, mais je n'ai pas parlé de l'histoire. Quelle est la différence d'ambiance à Bali?
Les
femmes font le rituel, ça c'est une chose. Et les rituels sont très importants. Le mot Bali veut dire en fait gift, offering. Ça c'est une chose. Donc il y a un
phénomène de forme.
Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre?
La sérénité.
Quoi d'autre? Vous avez remarqué du point de vue artistique par exemple. Tiens, vous habitez à un des. Qu'est-ce que vous avez remarqué au point de vue artistique?
Tout le monde est artiste.
Tout le monde est artiste. Mais attention, le chauffeur qui vous conduit à votre hôtel, lui va jouer au gamelan dessus. Hein? Le gamelan est un instrument de musique qui demande 30 personnes pour jouer un morceau. Chacun a deux notes. Il n'y a pas de chef d'orchestre. Tu parles de communauté. Hein? Ça va? Voilà la manifestation artistique. Ça parle, danse.
Bon.
Chez nous, les artistes, c'est le petit blanc. Il faut trois ténors pour la planète. Hein. Ça suffit. Si on n'est pas entre les trois, ben, tant pis. C'est pas vraiment ce que c'est. Là-bas, c'est différent. Implication du grand test. Hein.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez vu des mendiants? Il n'y a jamais de mendiant en Bali. Quand vous voyez un mendiant en Bali, il est déjà importé. Okay. Tandis que vous allez dans toutes les autres îles, l'Indonésie, de l'Inde, de l'Asie, vous voyez des mendiants partout. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont trouvé le système dans les terres depuis 847 ans. Voilà. Deuxième système est un système de temps. C'est organisé par les mendiants. Ceux qui ont fait un peu l'anthropologie de la même chose, de manière pour savoir que c'est le truc central. Donc, il y a une autre structure. Ah, voilà, on peut multiplier, mais là, je vous essaye de pas. Voilà. Bien, je crois que ça explique le paradigme. On a donc une cumulation de quatre couches, hein, donc, qui assurent qu'on ne voit pas.
Pour les autres questions vers la situation.
Avec lui.
Oui, parce que oui, ce qu'on veut aussi surtout, c'est qu'il y ait un dialogue entre les participants, avec toi ou entre eux, plutôt qu'à une deuxième conférence.
Bon, je vais être beaucoup plus rapide pour les autres. Il n'y a aucun slide. Donc, la résolution de l'instabilité des monnaies par monnaie complémentaire. Bon, je vais être brutal. Je pense que le système actuel va crever, mais je ne veux pas être parmi ceux qui essaient de pousser. Ils font ça tout seuls, très bien, merci. Je ne pense pas que c'est ce qu'on a besoin d'un équilibre de deux types de monnaie, une monnaie yang et une monnaie yin, dans la philosophie chinoise, ceux qui sont parmi les taoïsmes, le takotao, okay, c'était yin et c'était yang. Okay. Et les deux sont complémentairement nécessaires. Au moins, tant que le système actuel dure, il y a le système Yang par excellence. Tout est Yang. Hiérarchie, concentration, contrôle, tout est Yang. La compétition, tout ce truc est réservé pour ça. Donc, continuons avec ce qu'il y a et créons un système parallèle. Ouais. Donc, je ne m'attends pas à ce que ça résolve la stabilité du système. Je crois qu'il va permettre au système d'avoir un impact beaucoup moins délétère sur l'issue sociale et l'issue de la société et l'issue économique en s'écoulant, en mettant en place d'autres systèmes comme le C3 ou le BIM, où c'est un amortisseur, un amortisseur dans le système, mais je ne pense pas que ça va résoudre le problème intrinsèque au système.
Mais par exemple, dans le C3, vous expliquiez, est-ce qu'il n'y a pas le maintien d'un risque systémique à partir du moment où il y a plusieurs prêteurs qui font défaut, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'effondrement de cette monnaie
de laquelle ben. Parce que je vous ai parlé de 10 systèmes différents. Alors, le risque dans le système de temps ici, ben, vous savez, le temps, c'est le temps. Hein.
Oui, mais si
on met peut-être entre nous. Hein.
Le système C3 que vous expliquez, avec le fait que les...
Le C3.
Le C3. Hein, vous avez finalement un échange de titres de dette. Mais si jamais il y a plusieurs débiteurs qui font défaut, comme ce qu'on a vu dans...
Eh bien, c'est pour ça que c'est une compagnie d'assurance.
Oui, mais si le taux de défaut est supérieur à ce que peut...
C'est pour ça qu'il y a une compagnie d'assurance. Et donc, on s'est réassuré. Ouais. Ça va? C'est leur job. S'ils doivent demander 1,5%, ils vont demander 1,5%, parce que c'est plus risqué. Oui. C'est leur problème, c'est leur job.
Donc le risque systémique n'est pas évacué, c'est ce qu'on avait vu dans la crise de...
Ce n'est pas moi qui paye le risque de systémique, c'est la compagnie d'assurance, elle est payée pour ça, c'est tout.
Oui.
C'est comme dire, vous savez, un incendie dans une ville, c'est possible, oui c'est un incendie possible. J'ai une assurance, ce n'est plus mon problème. Est-ce que ça évite le risque d'incendie? Non.
Mais donc quelque part alors, le système C3
Le système C3 n'est pas indépendant du système monétaire actuel, et c'est pour ça que je l'introduis, parce que c'est le seul moyen pour essayer de convaincre les gouvernements de nous accepter comme monnaie de raison de taxe. Tout. Point à la ligne. Je préfère des autres unités.
C'est ça.
Mais, comme système intermédiaire, c'est à peu près ce que j'ai trouvé de mieux jusqu'à présent.
Mais vous êtes d'accord alors avec la remarque de Franck et de Rodolphe
que ça ne peut rien
pousser. Comporte toujours cette
potentiel déséquilibre entre la masse monétaire et la masse de biens produits qui pourrait créer.
Mais c'est en dehors du système, en dehors du C3. Ce n'est pas le C3 qui provoque ça.
Non, d'accord. Ce n'est pas
c'est le système bancaire.
C'est le système, d'accord.
Je ne touche pas au système bancaire.
Mais il ne le résout pas.
Il ne le résout pas.
On est bien d'accord.
Et il est probable qu'il y ait des crashs monétaires. Et le C3 ne va pas résoudre le crash monétaire. Maintenant, je vais vous dire une autre chose qu'on peut faire. Rien ne vous empêche, s'il y a un crash, comme c'est passé dans la Russie par exemple, oui. Ben, on ferme le système. Hein. Oui. On crée une nouvelle monnaie dans laquelle on dit que c'est un kilo de cuivre, ce qui s'est passé en Russie, okay, et on est parti. En dehors du système, on peut sauter. On peut sauter. Okay. On a une infrastructure qui nous permet de sauter. Mais enfin, je dirais que c'est une. Le gouvernement en Russie a accepté des paiements en tonnes de cuivre de taxes des entreprises, hein, parce que la monnaie va revenir. Donc il y a moyen de sauver ça. Enfin, disons que je n'essaie pas de résoudre le problème du système actuel, parce que pour moi, il n'est pas soluble.
C'est ça. Mais est-ce que dans la société de Bali, justement, quand c'est exemple,
ben, il travaille avec la monnaie nationale et une deuxième monnaie, le temps.
Et donc, le temps n'implique pas qu'on n'ait pas d'instabilité.
Non, tu peux avoir un crash de la roupie ou indonésienne. Bon, mais notre système continue. C'est tout.
C'est la résilience.
Ça, c'est la résilience. C'est la résilience au niveau du système social, mais pas au niveau du système bancaire.
Exact.
Ça va? Bon. Tiens.
Si on crée une autre monnaie, et je dis, moi j'utilise trois monnaies, la gaillon, la clé de sel et l'eau. Que si il y a, en fait, si vous prenez ces trois, c'est pour que ces monnaies-là ne soient pas un autre parallèle.
Non, la raison pour laquelle je fais les C3, c'est parce que ça résout le problème de l'emploi.
C'est ça.
Le but du C3, c'est résoudre le problème de l'emploi.
Parce qu'il y a un truc que je. Mais c'est tout à fait empirique. On a des problèmes de taille, c'est-à-dire si on dépasse une certaine taille, on recrée un mécanisme pour notre mécanisme de. Enfin,
ça dépend de quel système on parle. Quand on parle du C3, d'un C3 régional,
on parle d'un sel. Si je dépasse une certaine taille, je vois des phénomènes de consommation, production qui reviennent. Sinon, dans un sel, toute personne produit. Et reçoit. Il n'y a pas de consommation, si vous voulez. Il n'y a pas un consommateur. Vous êtes toujours, vous offrez, ça fait partie de la charte d'ailleurs, vous offrez, quelqu'un qui n'a rien à offrir n'est pas dans le sel. Donc cet échange, c'est comme ça que l'échange se fait, si on a une certaine taille. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'on voit bien, je connais des gens qui vivent 100 euros en Wallonie, ils sont au cœur du système et ils ne vivent qu'avec cette monnaie. Mais tout autour, vous avez tout un paquet de gens qui sont mixtes. C'est ce que je trouve très intéressant, c'est la complémentarité des deux modèles. Et je vois apparaître des fonctions financières nouvelles qui ne sont pas encore bancaires. Et j'appelle ça des transducteurs. Ce sont des gens qui arrivent à utiliser des trucs dans la monnaie euro avec le bien et le remettre dans le système et puis refaire de l'autre côté. Je ne sais pas, tu connais un peu maintenant.
Il y a
le monnaie qui est bien, pas avec des services. Il y a trop de potirons dans le réseau parce que tout le monde a son jardin. Ouais. Il va prendre ça, il va partir à l'essai, et il va traduire dans la monnaie locale par rapport à
ce thème-là, c'est en fait celui dont on est supposé parler là. Mais enfin, on va le traiter maintenant puisqu'on va l'amener.
C'est la complémentarité qui est très importante.
C'est
nous, on exclut.
J'insiste toujours à utiliser le terme complémentaire et pas alternatif. Ce que la presse a tendance à faire, parce que c'est différent. Oui. Bien, une alternative, ça voudrait dire qu'on n'a pas besoin de l'autre. Une médecine alternative n'a pas besoin d'un médecin normal. Une médecine complémentaire a besoin d'un médecin. Voilà la différence. C'est aussi une raison, parce que je prétends que un monopole de l'hygiène est aussi mieux qu'un monopole de et de dire pas ce qu'on faisait, ça n'a jamais tenu la route. Ok, un monopole de l'île. Ok,
c'est ça qui explique nos échecs.
Donc, bien, vous voulez en faire une alternative et vous en voulez, en fait, l'objectif, c'est
Je dis qu'il faut 100% de ça.
Ben, non. Ça, c'est une erreur. Bon. Et je signale aussi qu'il n'est pas par hasard que le système let's sell, let's en anglais, sell en français, typiquement, ça plafonne à 500%.
J'allais vous dire, là où ça tient, c'est 400.
Oui, c'est de 500 plafonds. OK. Bon. Donc, ce n'est pas un système qui va grandir au-delà de cette taille. Ce n'est pas une extrapolation, pas une extrapolation du sel qu'on va arriver au C3. Ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner. C'est un autre modèle, c'est une autre conception, c'est un autre mécanisme, c'est des autres accords. D'accord ? Il faut bien être conscient. Donc, moi j'appelle les sels les capillaires du système. Un capillaire est très important, c'est très bien, c'est sensationnel. Je n'ai aucune critique sur le capillaire, mais ne prétendez pas qu'avec les capillaires, vous avez bien 100 mètres.
Tout à fait.
Il y a des ponts. Le C3, il y a un pont.
Oui, mais est-ce que c'est aussi
la question? Oui, chaque. Non, alors ce n'est plus un sel.
Ah.
D'accord? Bon, il y a une cinquantaine de modèles différents de monnaie complémentaire. Chacun a des règles différentes avec des buts différents. On ne remplace pas un monopole avec un autre modèle qui est meilleur. On complète le monopole avec 50 variations sur des différentes possibilités d'après l'objectif, d'après le groupe qu'on va atteindre, d'après le problème qu'on veut résoudre. Et on est en fait, moi je dirais ça, franchement, moi je crois que ce domaine-là, au stade d'évolution où se trouvait l'aéronautique du temps des Wright Brothers, les premiers avions. C'est un miracle que ça vole, mais ça montre que voler est possible. Pas les fleurs, ça. Maintenant, on sait, on peut voler. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ce voyage? Voilà. On me suit? Bon. Donc, on a fini ça. Hein? Pénibilité. Valeur du temps. Bon. Il y a ma réponse à ça, ce qu'il vient de dire. Il y a deux systèmes différents. Le time dollar, le temps que le monde est décalé. Je fais une heure, crédit, une heure de débit. Voilà. Je signale tout de suite que dans le time dollar, il n'y a jamais d'ampliste. Il n'y a pas d'ampliste. Il n'y a pas d'ampliste de time dollar. Okay. Et je vais légitimement. Hein, les types utilisent 200 000 euros d'équipement, 7 années de formation, c'est pas la même chose que la CF. Donc, ça marche bien, le système time dollar, dans les communautés dans lesquelles le travail vaut à peu près la même chose, ou dans les fonctions dans lesquelles elles sont. Le fou est à qui fou. Que ce soit un directeur de l'Agence nationale ou le type en marque de feuille, ça n'a pas d'importance. C'est le même boulot d'aller chercher des templates dans le marché. Donc, mais n'essayez pas de faire ça. On n'est pas d'expert. Deuxième modèle, Critical Hour. Okay? Critical Hour, là, c'est un système mixte dans lequel on peut acheter les euros, les hours, avec des dollars. Ça vaut 10 $, ce qui est bien payé. Okay? Le salaire moyen est de l'ordre de 7 $ là, hein, dans les jours. Donc, c'est une cotation généreuse, à fond de ça. Il est accepté dans les magasins, il est accepté dans le restaurant, au cinéma, partout. Bon. Le dentiste, vous allez chez le dentiste, vous dites, pas de problème, dans 5 heures, hein, ça va prendre 20 minutes. Hein. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Si vous pas d'accord, allez ailleurs, moi il n'y a pas de problème. C'est exactement comme dans 500 $ hein, pour 20 euros. Ce qui est intéressant, ce qu'on a remarqué empiriquement, c'est que les dentistes se sentent un peu plus confortables, ils ne font pas autant normal. S'ils calculent vraiment, ça doit être 20 heures. Mais ils vont demander 5 heures pour lui. Parce qu'il va demander 1 000 $ pour un autre. Bon, ce n'est pas un problème. Hein. Par contre, demander, ça fait combien 5 heures. Ça fait 100 heures, 20 minutes de boulot, le type se sent pas. Mais voilà, ça répond à votre question.
Oui, tout à fait.
Donc ce sont des systèmes différents, dépendants du milieu et du contexte dans lequel vous voulez que ça fonctionne.
sort de la discussion qu'on a maintenant, pour revenir à votre modèle de départ, résilience, efficacité ou efficience, et diversité et interconnectedness, c'est vraiment c'est important, c'est d'avoir différentes monnaies complémentaires et
différents services.
Différents services, donc
une écologie.
Et c'est ce que vous faites alors avec le gouvernement flamand.
C'est ça qu'on est en
train de faire. Moi, j'étais totalement ignorant de cela, alors que je travaille avec eux. Ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse plus.
Il y a un blind spot pour les ballons.
Oui, c'est ça.
Non, parce que les ballons ont déclaré dans leur programme gouvernemental qu'ils voulaient faire des expériences avec des monnaies complémentaires comme à Gand. Je cite. Et Gand, c'est le projet pilote pour le gouvernement flamand pour l'écologie de monnaie complémentaire. Alors, bon. Continuons.
Nous, pas là, à l'introduction. Moi, j'entends...
On a dit toutes les choses importantes à ce moment-là, spécialement. Donc, vous ne l'entendiez pas, parce que, mon Dieu, c'était... on ne voulait pas donner les révéler. Les... On voulait garder les secrets entre les Belges. Ouais. Je sais pas. Oui.
Alors, moi, j'entends des choses, donc je voudrais savoir si je comprends. Moi, écologie, j'entends comme la notion d'écosystème.
Les écosystèmes.
D'accord. Voilà, donc pour moi, par exemple.
Et la raison, c'est que. Souvenez-vous de la courbe que je vous ai montrée. C'est les écosystèmes.
D'accord.
Exactement. C'est un écosystème social.
D'accord.
Et on a besoin de diversité là. Impôts. Le grand ami.
Et je comprends plus.
La manière dont le monopole est gardé dans la partie. Et à travers le fait, très ironique, que le gouvernement n'accepte de paiement de taxes que dans la monnaie créée par les banques. Donc c'est vraiment le prêt de certains. Vous voyez le gouvernement comme étant une des victimes du jeu, parce que c'est lui qui enforce, qui l'enforce, et si vous vous avez dit, j'ai des tas de choses, j'ai des parts d'or, et il m'a dit, vendez-le, et puis amenez-moi les euros. Donc, le monopole est assuré par le moyen des taxes. Et c'est pour ça que c'est tellement important pour le CE3, à mon avis, si on veut la généralisation du processus, le plus moyen, le plus simple, c'est de convaincre même un gouvernement local, même un gouvernement bruxellois, d'accepter, je ne sais pas, les choses, les paiements des taxes, n'importe quoi. Va permettre à tout le monde d'accepter cette monnaie. C'est ça le truc de local pour lequel, sinon, on ne faisait pas de monnaie. Tout le monde est obligé de payer des taxes. Et tout le monde est obligé de le faire dans cette monnaie. Uniquement. Vous pouvez utiliser n'importe quoi d'autre, on retourne à ça.
Mais puisque l'État peut demander l'argent sur la taxe, si vous avez dit.
La question, qui crée la monnaie, qui enlève le système bancaire, le monopole de création monnaie. Non, d'accord, vraiment, c'est là où se trouve le problème. C'est ça qu'on ne peut pas parler. Ça, c'est le grand tabou. Ça.
Bon, je crois qu'il y a une question.
Oui, la question, c'est aussi sur la tête. C'est, je crois que la fonction des humanités de l'État dans le système économique, je crois que vous ne mettez pas en question donc, la fonction que l'État pourrait avoir.
Non.
Mais c'est justement le moyen, mais plutôt donc, la façon d'être.
En fait, l'État se rend la vie impossible. Et quand on réfléchit un pas plus loin, que les banqueroutes vont avoir lieu parce que les gouvernements se sont endettés trop pour sauver le système bancaire, alors leur prêt, c'est le complet.
Mais c'est ça, la banque,
pour quand même pas voler. Hein. On sauve le système bancaire en endettant les États de façon à ce qu'on puisse continuer le monopole d'émission du côté bancaire. C'est quand même curieux, je ne veux rien dire d'autre. Quand on regarde ça comme ça, un peu comme un extraterrestre, on va en dire quand même. Qu'est-ce que c'est que ça?
L'alternative
de nationaliser l'émission des monnaies, par exemple. Faire ce que les types de Chartres disent. Pas de problème. On vous sauve, nous prenons la création monétaire, ok? Et vous continuez comme vous faites maintenant, vous n'avez plus que des locus. C'est l'alternative. Je dis simplement que ça ne résout pas le problème pour moi. Tout ce que ça dit, c'est mettre un autre chauffeur en place. Donc ce n'est pas ce que je trouve.
Et quelle était la première question de l'ancien fait, c'est de voir, c'est d'aller procurer l'équilibre, comme il disait.
C'est l'épisode du moment. Ok? C'est un autre épisode en Argentine, un autre épisode en Russie, un autre épisode. Chaque histoire a un épisode différent. Ok? Mais le système est le même.
Et c'est parce que c'est dans ce moment-ci, la courbe, c'est dans ce moment-là, c'est en descendant plutôt qu'en montant. Voilà de quoi on discute. Moi, je dis que c'est parce que c'est tout. Pardon. J'ai trop d'énergie.
Dans ce système d'échange,
le troc, c'est lorsque nous n'avons pas d'accord sur une unité d'échange. Moi, je vous donne ça et vous me donnez votre collier. La transaction suivante, c'est vos souliers contre ma ceinture. Ce dont on parle dans le système, ce n'est pas une opération commerciale.
Non, c'est d'ailleurs, c'est de la relation humaine pure.
Bon, ce n'est pas taxable aujourd'hui. Si moi je vais vous donner un coup de main pour aller, je pense, prendre un gars. Okay? Bon, et vous m'évitez un repas. Bon, pour me remercier, je dois payer des taxes. Non, hein?
Non. Mais ça veut dire que le système existe.
Non, parce que je vais chez ma mère. Ma mère doit payer des taxes, le fait que je les dois prendre en cadre. Non, elle me nourrit, elle dit. C'est la même activité. C'est le cas que si je suis un décorateur d'intérieur. Alors, à ce moment-là,
oui. Légalement, c'est les deux premiers intérêts qui après, c'est
oui. Oui.
Et concrètement, il y a beaucoup de taxes qui
peuvent être
créées.
Est-ce
que le système existant
légalement, c'est par exemple ces modèles-là en paiement de taxes. Est-ce que le but du gouvernement pour faire des autres activités, c'est pour payer les gens qui font du boulot, à quel point ils ont le boulot, mais quand on est compris.
Mais il y aura moins de taxes, puisque si au lieu de payer un peintre avec la TVA, je vais.
Non. Il y a
un des trucs qu'on est en train de faire, c'est précisément pouvoir taxer tout, soi-disant, parce que ça, c'est une très grande valeur. Eh bien, je vous signale ce qui va se passer. Le résultat, c'est qu'on va en route, et que personne ne vous fout.
Mais si on va en route.
Mais avec les chèques services, par exemple, ils ont inventé les chèques services. Dans le CEL, on dit qu'il y a des gens qui vivent avec les chèques services de l'État. Donc, on ne va pas prendre des activités d'échange qui reprennent ces activités-là, seulement les chèques services sont bien moins rentables pour les gens que le CEL, s'ils ont l'économie dans le système. Et donc, ce qu'on fait, c'est que parfois les gens ont des chèques services, parfois des chèques services.
On est en train de faire dans la partie grise, et tout est mon principe à moi. Il faut classer les monnaies complémentaires en deux familles. Il y a une famille purement sociale, et dans laquelle il y a transparence totale. C'est-à-dire que. Entre elles et vis-à-vis de l'État,
entre elles
et transparence totale vis-à-vis des utilisateurs et vis-à-vis de l'État. Et dans ce truc-là, il n'y a pas de taxe. Ça va ? Ça, c'est moi qui vous aide à votre cadre. Ça va ? Bon. Je ne suis pas un encadreur, ce n'est pas mon métier. Ce n'est pas ce que je vais faire dans ma vie. Je fais ça pour vous cette fois-ci.
Dans la charte.
Donc, ça, c'est un truc. Et le deuxième truc, c'est les trucs commerciaux. Et le truc commercial est taxable et l'objectif c'est que le truc commercial, la monnaie utilisée pour la transaction soit utilisable pour le TVA. Hein? Et qu'il faut que l'État mette les critères de type de monnaie qui sont disposés à accepter pour faire ça. Pourquoi est-ce que c'est dit, je n'ai jamais dit mais c'est implicite, que la seule monnaie c'est celle qui est créée par les banques? Pourquoi est-ce que les hôtels créés par les entreprises n'est pas la seule monnaie? Et l'État a besoin de sécurité pour acheter à ces mêmes entreprises. Donc voilà comment je propose de faire la chose. On n'est pas là, on a commis tout ça dans une soupe, et ce qu'on est en train de faire, les États-Unis ont détaxé officiellement le time dollar, okay, parce que ça résout des problèmes sociaux moins cher pour l'État que
le
voilà ce que je demande. Et que ce soit transparent. Et que vous pouvez faire quelque chose.
faites un mot.
Catherine, Catherine, à nouveau le tableau de Bernard, résilience, efficience, à mon avis très parlant pour expliquer ce que tu, enfin, le problème que tu as maintenant. Effectivement, avoir des monnaies complémentaires peut réduire un peu l'efficience, mais augmente la résilience, et donc permet d'atteindre mieux l'optimum. Donc je le répète. Donc le but vraiment n'est pas de dire on supprime l'euro, on supprime ce type
tout
de
ce qui est continu.
Non, on complète pour augmenter la résilience, éventuellement un coût de moindre efficience globale du système, mais la combinaison des deux étant un meilleur, une meilleure situation.
Il y a un prix de compétence de l'île.
Comment ? Meilleur niveau de vie, meilleure vie en société, qualité de vie.
On pourrait pas se voir que par exemple. On peut continuer à la cinquième question ?
Oui.
Ça va ? Où est-ce qu'on allait un point du temps ?
Eh bien, donc je pense qu'on peut la concentrer vraiment à la gestion.
Comment initier un projet de monnaie complémentaire ? Je vais vous donner la citation de mon ami Togarpa, qui a démarré 300 systèmes. Il a dit hein, un seul ligne indicateur d'un projet qui a un succès, c'est le ligne. Bon, d'abord et avant tout, tout le reste est secondaire. Donc, l'air est secondaire, l'environnement est secondaire, la technique est différente, tout ça est secondaire. Si vous avez un leadership convenable, à l'échelle du système, ça peut être un leadership de la quartier, c'est un cesse. Ça peut être un leadership pour le monde, okay, pour l'Europe, okay, ou pour les Chinois. Ça peut être un leadership pour la ville de Bruxelles. Ça peut être un leadership au niveau où. Et la qualité du leadership au niveau de l'échelle qui veut agir, c'est le seul critère. Le reste, parlons assez ou nous, on va le demander. Mais je ne peux pas être le leadership pas. Parce que si je ne suis pas là, je vais vous donner un peu. C'est le seul critère. Je suis en train de démarrer en Bretagne avec 200 entreprises là-bas, un C3, dont le volume, il y a 200 entreprises en question, on fait de 15 milliards d'euros par an. Dans lequel ils échangent 10 milliards entre eux. Ça va ? Ça va être passionnel pour septembre 2010. Bienvenue. Ça va marcher.
Okay. Bon. Moi, j'aurais une question pour. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont justement actives dans le domaine. Et une question que j'aurais, c'est. Bon, apparemment, pour les monnaies complémentaires, il y a quand même un changement de mentalité.
Oui, qui
est
nécessaire. On a vu
pour. Est-ce que dans la pratique, c'est quelque chose qui est difficile à insider ? Est-ce que c'est, dans certains cas, un frein ? Justement de pouvoir accompagner le changement sociologique que ça implique.
J'ai à un moment donné été tenté, et je crois que je m'en suis rendu compte peut-être un peu trop tard, j'ai occupé de 6-7 ans pendant ce sujet avant de réaliser la chose. La solution aurait été de ne pas parler de monnaie. C'est ce qu'ils ont fait pour les intermédiaires. Les intermédiaires de Miles, il y en a 15 000 milliards. Il y a un trillion et demi par an qui s'ajoute. Ça va ? C'est le plus gros système monétaire du monde, plus gros que le dollar. Ça va ? Bon, et personne n'en parle. Ça va ? On a fait des systèmes de paiement, on a fait tout un truc, ce sont des alliances mondiales, c'est un système mondial, il y a 5%, ça fonctionne. Et quand je dois dire, quand je dois donner un exemple, quand je vous dis dans une audience, je vous dis voilà, vous avez déjà plus utilisé les monnaies complémentaires sans le savoir. On est déjà au-delà du truc, du paradigme. Et peut-être que la solution aurait été de ne pas affronter le paradigme. De ne pas montrer que l'empereur est nul. D'accord ?
Mais pas pour des services nécessaires et urgents. C'est quelque chose de désagréable, c'est quelque chose c'est du luxe.
Ça dépend de qui. Pour l'intermédiation, c'est pas du luxe. Pour l'intermédiation, c'est un business. Ça leur coûte, pour une des 5 millions, dont j'ai les chiffres, ça leur coûte 140 millions de dollars par an et ça leur rapporte 700 millions. Point. Donnez-moi un autre business qui fait ça.
Mais qui déprécie comme ils l'ont fait en 2002, non plutôt donc en 2001, ils l'ont déprécié donc le réseau de l'inflation comme en Argentine.
Pour eux, c'est pas un problème.
Nous, c'est un problème.
Moi, je n'ai pas dit que c'était un bon système.
Je
n'ai pas dit que c'était un bon système. J'ai dit qu'il y a un moyen de faire des très gros systèmes.
Oui,
des très gros systèmes sans en parler. Et que tout le monde utilise et qu'on n'a pas de problème de paradigme.
Il y a des bons systèmes et des mauvais systèmes. Il y a des bons systèmes nationaux et des mauvais systèmes nationaux. Il y a des mauvais systèmes complémentaires et des mauvais systèmes. Ils sont bien gérés, mal gérés. Tout ça, c'est invalable. Ce n'est pas ça que je dis. On n'a pas un machin qui miraculeusement, tout va bien. Il faut gérer ça.
Dans l'expérience que j'ai, je dirais qu'il n'y a pas un changement prescrit qui demande un peu. C'est la nécessité. Ce n'est pas un intellectuel qui crée un système, c'est un mouvement. Pour celui qui met la mémoire, qui m'a enseigné ensemble, c'est venu de l'école, des parents de l'école, parce qu'à un moment donné, dans trois classes, première, deuxième, primaire, il y a des classes vertes. L'école demande son moment et il se fait qu'il y a des parents qui ont des difficultés financières, donc les enfants ne peuvent pas aller, on s'entend très bien. Et donc on dit c'est pas normal que les enfants doivent pouvoir aller. Donc on a commencé à faire en sorte que personne ne paye rien. Et donc on a fait toute une série de choses, en fait, ça a été payé. Et notamment avec des. On a pris des accords avec des grandes surfaces qui vendaient des choses. Nous on envoie quelque sorte et nous restaurons. Donc, résultat de l'opération, on a pu payer les classes vertes. Puis après, on s'est vraiment bien amusé. Je crois que c'est très bien amusé. On a continué. Et on a dit maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a fait un set. Puis maintenant, on a un set, on a des produits. On sait quoi en faire. On va faire un magasin convivial. Puis on a un gars qui dans un chat collectif. Et donc, il y a tout un esprit qui change progressivement, notamment. Mais ce n'est pas prescrit. Et la mentalité du village change complètement. Mm-hmm. Parce qu'il y a une personne qui a eu un truc avec les.
Tout le monde connaît tout le monde.
On a refait sa maison alors qu'elle n'avait pas d'assurance. On a trouvé
ça.
Donc,
ça, c'est votre histoire.
C'est une histoire différente.
Chacun, comment il est arrivé là-dedans. Dans certains cas, ce sont été des pionniers sociaux du camp qui a construit le système, qui a créé un software et qui est un autre.
Il y a une autre question.
La question très pratique que certains d'entre vous avaient, c'est. Si on recense besoin aujourd'hui dans une communauté donnée, qui peut nous aider sur base d'une expérience similaire pour pouvoir le lancer? Parce que moi, je veux dire, je sens qu'il y a des besoins comme cela dans mon école, dans l'école de mes enfants, mais je ne sais pas par où commencer.
Il y a des manuels, il y a des trucs en plusieurs langues, il y a en français ici à Bruxelles un type qui a fait ça, qui a un manuel qui te le dit, en dialecte. Je peux te mettre en contact. Maintenant, je vous dis aussi, attention, hein. Le sel, c'est des capillaires. Mais ça veut dire, réinsiste là-dessus. Soyez clair de ce que vous voulez. Le sel ne marche pas pour les négoces. Ce n'est pas bon pour les magasins. Il faut déjà un magasin qui soit contrôlé par le système pour que ça marche. Un magasin normal ne va pas jouer. Et c'est pour ça que ça limite à 500 personnes. D'accord ? Donc vous êtes en dehors du système. D'accord ? Donc c'est valable pour tout le monde. Vous voulez faire ça.
Au local, c'est...
Le local au sens pur du terme. Et ça ne va pas plus loin. Il ne faut pas vouloir faire plus que ça. Ce n'est pas un système de survie. Ou très marginalement. Tandis que ces trois peut l'être. Donc ça dépend. Je voudrais parler un peu de comment démarrer un C3. Je suis en train d'en démarrer un en Bretagne. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, contactez-moi. Vous avez mon email, vous avez mon téléphone. Bon, je cherche un chef de projet pour le faire aussi. Mais c'est pas moi. D'accord ? Je cherche un chef de projet pour faire ça.
Un C4 qui va démarrer un
C3. Encore, je le suis par défaut. D'accord ? Mais il y a un projet à démarrer, un C3 à démarrer en Belgique, à Bruxelles, en Flandre, en Wallonie. Je ne sais pas quelle nouvelle. Le C3 ne fait pas partie du système en Flandre. Okay. Il est nécessaire. On a besoin d'un système C3. À n'importe quelle échelle que vous pensez qu'on va faire, à mon avis, de façon urgente, si on veut éviter le problème de
très, très, très rapidement, que faut-il comme qualification pour être chef de projet de cela comment est-il rémunéré? À quel taux de. Je veux dire, c'est du 50%, c'est du
100%. Il doit être crédible auprès des entreprises qui vont jouer le rôle de C3. Ce sont probablement les entreprises qui vont devoir payer. C'est le cas en Bretagne. Et on peut essayer de trouver des subsides, mais c'est un support un peu plus, mais pas plus. Ça prend trop de temps et c'est trop en même temps. Okay. On fait des choses rapidement. Okay. Et le chef de projet, ben, la première chose, je crois qu'il y a ça doit être un type qui est un leader, okay, un type, une personne qui est capable de motiver des personnes différentes que lui dans des milieux différents. Bon, ça, c'est la première chose. Donc, un chef, c'est quelqu'un qui est capable de motiver d'autres. Bon.
Oui.
Le deuxième truc, il doit connaître quelque chose en informatique. Hein, il y a une dimension informatique importante. Non pas que lui doit résoudre le problème, mais il y a en fait trois personnes clés dans ce projet. Il y a le chef de projet, il y a un truc informatique et il y a un truc du réseau même. Donc les entreprises entre elles, comment convaincre les entreprises de participer, quels sont les arrangements qu'il faut faire, trouver l'accord avec la compagnie d'assurance, tout ce truc-là. Donc ce truc va se faire. Et il y a un type, un informaticien. Et le type, le chef de projet, est capable de diriger les deux. Donc comprendre suffisamment ce qui se passe en tout pour pouvoir le diriger. Donc voilà, voilà ton chef.
C'est à ton cœur.
Pardon ?
C'est à ton cœur.
Si tu veux faire sa vie, oui. Et je crois que l'on a intérêt à faire sa vie.
En double temps.
Non, mais je crois que si vous voulez faire un truc d'une certaine échelle, enfin, des trucs à faire en Bretagne, c'est pour 10 milliards d'euros par an. Hein? Bon, donc, pour ce volume-là, on peut commencer à parler. Ok ?
Merci. Au niveau de la Belgique, ça présente combien ?
À mon avis, je ne suis pas convaincu que le modèle belge sera le meilleur. Je pense qu'il y en a un en Flandre et en Wallonie. Et peut-être un peu celle-là. Mais de toute façon, et à mon avis, si je devais choisir moi-même comme ça, mes propres intérêts, je préfère commencer à Bruxelles parce que c'est petit. Okay. On peut le faire localement. Et alors, ils peuvent faire des accords avec les deux autres. Hein. Mais c'est un moyen d'éviter tout le problème du blocage politique belge. Okay. Et le foncer là-dedans. Et je voulais dire, finalement, à ce niveau-là que ça se passe. Hein.
Ça, c'est sûr, un
minimum. Le C3, il faut un minimum.
Il faut un minimum, mais je dis que ça ne peut pas avoir une ouverture régionale.
Non. Ça pourrait être même sectoriel. Par exemple, on pourrait faire l'agriculture.
Okay.
C'est déjà plus complexe. Hein. Le truc, l'avantage de faire un système, l'idéal, c'est une organisation qui existe déjà, qui est le cas en Bretagne, il y a 200 entreprises, des produits en Bretagne. Il n'y a pas de vraiment grosse boîte, il n'y en a aucune. Hein, ce sont des belles moyennes entreprises. Hein. Et ensemble, on se dit bon. Il y a Leclerc. Il y a du Leclerc en Bretagne. Il y a une banque. Il y avait deux banques.
Il faut une banque.
Pour le C3, oui. C'est quoi le C3? Oui, c'est pas trop difficile. Voilà ce qu'il nous faut. Comment gérer les monnaies complémentaires au sein de l'entreprise? Mais en fait, vous en avez. Vous commencez à définir ça. Est-ce que vous avez remarqué que dans l'armée, par exemple, il n'y a pas un type qui s'amène quand vous engagez la réunion. Un bras, 10 000 euros. Une jambe, 20 000 euros. Le corps en plein, 100 000 euros. D'accord? Vous signez? Vous avez déjà remarqué que c'est pas comme ça que vous faites? Je vais vous donner des médailles parce que tu as perdu ton bras. C'est ton bras. C'est ça, une médaille. Vous avez trois pas. Ça va? Ils ont compris, hein? Ça va? On ne motive pas les gens comme ça. C'est une monnaie complémentaire, la médaille. Ça va? Bon, ce n'est pas vraiment une monnaie parce qu'elle est dans une seule direction, on ne peut pas les échanger latéralement. C'est pas moyen de. Mais on donne une autre manière de valoriser les choses. Dans l'église catholique, d'abord, on attend que tu meurs après 100 ans, on démarre personne. Et on attend que tu aies des morts, de toute façon, il n'y a pas une femme qui sort après, le tard, on est. Maintenant, oui, il y a, par exemple, le learning currency, la monnaie d'apprentissage. Un apprentissage, c'est ça c'est un terme. Il y a ça s'appelle la pyramide des the learning pyramid. Est-ce que vous vous souvenez des choses différemment d'après la méthode par laquelle vous avez appris? Voilà la question que ça adresse. Quand vous avez écouté tout ce que je viens de dire, ça va rester 5%. Ok? On ne fait pas d'illusion. Bon. Quand vous avez lu le bouquin, vous allez vous souvenir de 10%.
C'est pour ça qu'on est souvent.
Bon. Il y en a plusieurs. Quand vous faites un projet commun, disons pendant une après-midi, dans laquelle on utilise le matériel pour apprendre quelque chose, vous allez vous souvenir de 50%. Mais 90%, c'est quand vous, lui, apprenez quelque chose. Vous allez vous en souvenir. Lui va se souvenir de 5%, vous n'avez
pas. Bon. Ah oui.
D'accord ? Donc, l'ensemble de notre éducation, okay, l'ensemble de l'éducation, depuis l'école gradienne jusqu'à l'université avec tous les intermédiaires, utilise les deux systèmes les moins efficaces possibles pour enseigner les gens. Ce n'est pas un système d'apprentissage, c'est un système de contrôle. Le but du système d'éducation universelle qui a été introduit par Napoléon était de changer des paysans en ouvriers et soldats. Ça va ? Et l'objectif de ça, c'était 3 points. Faites ce que je dis, non pas ce que je fais, faites ce que je fais. Donc, obédience, obéissance à l'autorité. Deuxième truc, faites-le à temps. Ce qui pour un paysan est toujours un problème, parce que lui ne fonctionne sans temps, du moins pas avec le temps comme ça. Et troisième truc, soyez fiers de votre nation de façon à ce que vous êtes disposé à perdre votre bras pour la gloire, pour la protection de notre patrie. Ça va ? Bon. Donc voilà l'agenda. Okay ? Et tout le reste, c'est de l'embellage. Okay ? On met ça maintenant en histoire, en géographie, en mathématiques, musique, tout ce que vous voulez, mais c'est toujours le même schéma. Faites ce que je dis, faites-le à temps, faites fier de votre état-nation. Voilà l'agenda. Je crois qu'il est temps de penser si l'objectif du 21e siècle est encore le même. Je prétends que non. Je crois que nous avons tous à apprendre une infinité, à tous les âges, à tous les époux, à tous les hommes. Il y a une infinité de choses à apprendre. C'est débloquer ce truc-là. Oui.
Ça, c'est et en fait, ce qui se passe, ce qui est très impressionnant quand on accompagne le chômeur, c'est qu'il entretient des habitudes très ancestrales. Et j'ai retrouvé une source en regardant ce qui se passait dans le village près de Lyon. Il n'y avait pas d'argent avant qu'il en prenne. Les gens s'échangeaient plein de fois. Les femmes tissaient des tissus très beaux. Elles mettaient ça sur la charrette du maire. Elles allaient au marché puis. Au marché puis, elles vendaient les tissus. Et puis, elles avaient l'argent. Avec l'argent, elles achetaient des matériaux qu'on n'avait pas dans le cas. Et l'argent restait à l'île. Elle remontait vers le village de la distribution. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle faisait tellement bien du tissage qu'un ingénieur anglais est venu pour mettre des initiatives. Parce qu'il avait vu la main d'œuvre. Et les femmes ne savaient pas d'aller travailler là. Il y a toute une histoire, absolument extraordinaire. Comment on fait pour qu'une femme qui tisse bien accepte de mettre ou va mettre sa compétence au service de l'entreprise? Il y a toute une histoire qui se passe. Ce qui se passe, c'est que les individus sont devenus pauvres. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de monde, il y a moins d'échanges. Donc ils ont dû prendre de l'emploi. Et il y a suivi l'histoire d'un homme qui est apparenté à une famille ou un homme qui n'a pas su se mettre dans l'emploi à cause des rythmes. Et puis maintenant, dans cette zone-là, le marché s'est retourné, il a plié les hommes, et ils sont tous chômeurs. Et on doit les accompagner, on les ramener à l'emploi. Et en fait, ce qu'ils font, ils reprennent la vie d'avant ils sont pleins d'occupations. Et donc, quand on est occupé à l'homme, ils font la pierre, ils récupèrent plein de bazar, et
C'est impressionnant parce que c'est un peu comme si la culture de fond n'était pas celle que vous dénoncez.
Brodel, dans son histoire de la France, parle d'un village près de Havre dans le Midi, où il a vécu lui-même, et il dit, il cite un des fils d'une personne qu'il avait connue à l'époque. En fait, le monde médiéval s'est arrêté dans cette région en 1955. Okay. Et la seule chose qui manquait dans les villages, et ça rejoint ce qu'il dit, c'était l'argent. Ils avaient tout, sauf l'argent. Sauf l'argent. Et qu'on a rendu une situation dans laquelle l'argent, cet argent-là, les idiots, dans l'idée d'un monopole, ils ont dû abandonner. Le village a été abandonné parce que tout le monde allait partir pour aller gagner de l'argent.
Ils n'ont pas su faire le complémentaire.
Oui, attends, voilà.
Juste, je me permets, je voulais qu'un ouvrage intéressant que vous voulez, c'est Toffler sur la troisième vague.
Oui.
Oui. Toffler sur la troisième vague. Oui. Si vous l'avez, l'occasion de le lire, c'est assez décapant. Toffler sur la troisième vague.
Ah, le parc, oui. Le grand futurologue.
Bon, je voudrais revenir rapidement avant les monnaies complémentaires au sein de l'entreprise. Il y a une entreprise allemande qui a utilisé la monnaie de d'apprentissage, qui est en fait une chaîne d'apprentissage dans laquelle j'assainis quelque chose à quelqu'un d'autre qui a une nouvelle arrivée, et de façon à la fin, je me permets de faire des. Et en fait, ce qu'ils ont fait. En Allemagne, il y a un budget de formation qui est nécessaire, qui est dirigé par les ressources humaines. Et ce qu'on a fait, on a pris la moitié de ça. Et les gens qui ont gagné des points décident ce qui se passe avec ça. Et ça peut être dans les théâtres, comme un conseil. Donc ils décident ce qu'ils veulent faire avec la ressource en question et on crée une monnaie dans laquelle c'est désirable de participer. Ce qu'on va faire en Argan et dans l'Athénée à problème, l'Athénée qui est le fonds de panier, dans lequel un tiers des étudiants et finalement le premier en dessous, voilà le contexte dans lequel on a introduit la monnaie d'apprentissage. Et l'idée, c'est que le type de 14 ans, c'est quelque chose d'un type de 12 ans. Il va apprendre beaucoup mieux.
Vous pouvez expliquer ce que vous faites
c'est ça. Enfin, je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est du nouveau notre système. Mais enfin, voilà, on peut utiliser ce genre de trucs dans l'entreprise. Et ça s'est fait en Allemagne.
Est-ce que le DIF en France, le droit individuel de formation, n'est pas une certaine début de forme de monnaie?
Non, ce n'est pas ça.
On accumule un certain nombre de droits au fur et à mesure de ce qu'on travaille et puis on peut l'utiliser à l'espoir.
Ce que je ferai avec le DIF, c'est d'utiliser le budget du DIF de façon plus créative et créer une monnaie complémentaire dans laquelle, à la fin, on crée un. Voilà. Une des clés, c'est la motivation. Bon, je peux vous créer un système dans lequel, si je vous donne 1000 euros ou 1000 plaplaps, tu vas préférer les 1000 plaplaps. D'accord ? Bon, voilà la question. Bon. Comment on fait ça ?
Moi j'appelle ça, j'appelle ça Hensydrome.
On crée une athlète. Le job de cette athlète, c'est de réaliser vos rêves. Quel est votre rêve? Vous avez fait un rêve pour vous personnellement, vous avez fait un rêve pour une communauté dans laquelle vous partez. Une tâche de neige pour le résultat. Quel que soit le truc. Et il faut un accord sur quelque chose. Et on fait un accord, un contrat légal, en disant vous obtenez 1000 points dans, avec les activités que voici. Et on donne l'autre. Voilà. Et vous faites la même chose dans l'entreprise. Mais quand on essaie de faire tout avec des euros, c'est la compétition en or. Dans les questions de chassis, vous faites des choses. Oui, pour faire la base. Donc voilà, nous allons aller à la
troisième. Une question là.
Oui.
Une question. Quand vous avez abandonné votre option, vous avez tout mon problème, c'était donc le vieillissement de l'application.
Exact.
Justement, quand on parle de la monnaie complémentaire, et que les gens ne sont plus à même de fournir des services à l'un ou à l'autre.
Le fouillis actif fonctionne comme ça. la solution que j'ai proposée est celle du foyer type de la fois. Vous avez une HBL.
Ok.
HBL Database.
Ça va?
HBL Database. Les personnes qui veulent obtenir de l'aide, ça s'enregistre là-bas. Okay. Et les personnes qui sont disposées à fournir de l'aide là-bas, s'enregistrent là-bas. Okay. Alors, ils mettent ensemble. Okay. Si la personne âgée est dans une situation dans laquelle elle ne peut rien faire, et rien faire, c'est vraiment extrême, hein, parce que ça peut durer, mais c'est extrême. Eh bien, il n'y a pas de problème. Moi, je fais 3 heures, je rejoins les 3 heures. Que la personne âgée est pour le cadre de l'enfonique ou pas, n'est pas mon problème. L'ASBL le couvre. Hein? Donc l'ASBL a un taux négatif. Ce que font les banques, d'ailleurs. Quand les banques vous financent, ils font des machins négatifs. Voilà. Ils appellent ça des actifs. Mais non, on retrouve dans un modèle, dans les pairs. Oui, ils ont en commun d'être un système d'information pour mesurer les activités des êtres humains. Ça, on a en commun. Maintenant, les règles du jeu, c'est totalement différent. L'unité, ce n'est pas décidé. Les règles de l'unité, ce n'est pas décidé. Tout ça, on peut créer.
Mais imaginons que vous êtes interdit à 90% de gens qui sont âgés de 90 ans.
La réalité, c'est 20%.
On va faire un accord entre Québec et l'endroit où tous les boss de trucs se trouvent qu'il y a beaucoup de boss. Ça va? Ça donne un avec eux. Demandons aux enfants d'être de qui veulent. Peut-être qu'ils veulent prendre des vacances en Turquie. D'accord? On organise des vacances en Turquie, on leur donne, ils vont aider les gens, non. Ils ne sont pas mis devant, ils
ça veut dire qu'il y a des gens dans ce système qui ne vont rien fournir aux autres et qui vont être des purs bénéficiaires d'aide. Ça, c'est possible.
Et la SBL a comme but d'aider ces personnes. C'est pour ça, c'est ça son but. Donc ce n'est pas normal.
Non.
D'ailleurs, ils existent.
Elle-même aider les personnes quelque part.
Oui.
Donc, si elle est en déficit de gens qui peuvent aider, gens qui peuvent être sûrs, peut-être qu'il y a une autre région.
On retrouve la logique du don et du contre-don.
Exactement. Bon, je vais vous dire, pour moi, il y a dans Star Trek Enterprises, il y a Spock. Tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde fait ce qui passionne, et qui permet de grandir lui-même, de se développer et de développer l'activité dans laquelle il est. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Je pense que ça c'est possible. Pas maintenant. Il y a un problème d'éducation à faire, on a besoin de 400 ans. D'accord ? Et je crois que 400 ans, on a moyen. Et finalement, moi je considère les monnaies complémentaires comme des instruments d'éducation.
C'est ça.
C'est un simple instrument. Pourquoi est-ce que toutes les communes hippies sont crevées? Il y a eu tout le phénomène des hippies dans les années 70. Il y en a eu des milliers. Ils sont tous crevés de la même façon. De la même façon, c'est très facile. Il y a 10 ou 15% des gens qui font du boulot. Et les 85 autres sont là. Bon. Et lorsqu'ils en ont marre, les 10 ou 15%, ils partent et tout s'arrête. Bon. Donc il s'agit simplement d'inventer un règle de jeu dans lequel chacun apporte quelque chose. Et on crée une monnaie complémentaire qui fait ça. Et fois qu'on a la bonne habitude, eh ben on peut cogiter le système.
Sinon, c'est faire circuler.
Par exemple, quand on dit jeu, là aussi, c'est fondamental. Pourquoi est-ce que tout devrait être compliqué? Pourquoi est-ce que tout devrait être difficile? Pourquoi tout devrait être pénible? Pourquoi simplement d'être dans le cerveau fait c'est un jeu et on rentre dans le
Mais finalement, le monde est un jeu.
Mais oui, c'est ça. Mais l'homme, il a
l'économie est un jeu.
De rendre les choses compliquées, complexes, difficiles, moroses.
La différence entre les gosses et les adultes, c'est simplement le jeu. Le jeu est plus joué.
Le jeu est plus joué.
Bernard, je viens de dire que toutes ces monnaies complémentaires, en réalité, pourraient être une forme d'apprentissage.
en elles-mêmes, elles ne vont pas transformer le système aujourd'hui.
Je n'essaie.
D'accord.
Elles vont faire évoluer.
Ok, on évolue. Mais qu'est-ce qui va à un moment alors créer ce basculement véritable?
C'est
la masse critique. C'est la masse critique.
C'est pour ça que moi, la question d'organiser des intercelles, parce que vous avez raison, mais alors c'est sans doute autre chose. À partir au-delà de cette action, il y a des dysfonctionnements.
Et il y a un problème
intercelle. Si je résous le fait que le ciel fonctionne sur, vous l'avez dit, c'est tout à fait exact, 4-5 personnes qui un jour vont avoir marre, parce que ça se distribue mieux, hein, et c'est vrai que ça se.
C'est ça, c'est un modèle, un aspect.
Mais alors, il y a des idées, puisque les villages autour le font aussi, il y a des idées de faire des intercelles. Et ce qui est très amusant, c'est de voir que l'État commence à intervenir dans les structures de fédération par rapport à l'emploi. On a eu la première exclusion du chômage de quelqu'un qui était échangé sur son activité entre une commune de Verviers et une autre. Et paf, c'est parti. La seule chose qu'il peut faire maintenant, c'est rester complètement dans le
cercle. À mon avis, je ne suis pas en faveur d'un universel.
Je ne
parle pas des élections religieuses, mais simplement parce que le sel, c'est un capillaire, et vouloir en faire autre chose, c'est pas un.
Le problème, c'est que si la capillaire est toute seule, elle souffre.
Si la capillaire fait partie d'un système d'écologie de monnaie complémentaire, ce qu'on est en train de faire avant, ce n'est plus le cas.
Okay,
ce qui manque dans un process sel, c'est que le sel est complètement déconnecté, il n'est pas utilisable dans un négoce. C'est là où se trouve le problème. Nous fonctionnons dans une économie dans laquelle le commerce est la base économique. Bon, alors vous isolez ça, vous n'avez pas de vision. Donc vouloir interconnecter ça pour résoudre ce problème-là n'est pas une bonne chose.
Ok, mais alors à ce moment-là, il faut rentrer dans des projets comme celui de David.
D'accord. Charles, Charles d'abord, parce que je crois qu'il faut laisser.
Moi, ce que je voulais dire, c'est, au fond, une monnaie complémentaire est un système d'apprentissage.
Mais
on réapprend la vie, on réapprend une vie en communauté.
Et je dirais que c'est la même chose avec l'euro.
Oui.
L'euro est un jeu d'apprentissage pour apprendre à contribuer quelque chose à la société, que la société peut bien acheter des droits. Okay. Et on a limité le jeu dans un truc compétitif, okay. Et on a plus que ça. Voilà. Mais en fait, ça. Okay. Mais en fait, la monnaie normale est un simple test, un moyen de savoir si ce que tu contribues est supposément évalué par la société en mettant une contribution positive. Si ce n'est pas le cas, ben, vous crevez.
Voilà, je crois que l'euro, pour le moment, est un système de désapprentissage.
Non, ça apprend dans l'indirection, merci. C'est ça que ça veut dire. Ça apprend à être un bon patriarche. Ça apprend à être le sauveur de la nation. Ça apprend à être le protecteur du faible et d'orphelin, mais moi je suis patron. Voilà.
Mais l'exclusion en masse.
Faites venir.
Voilà
ce que ça apprend.
On
verra.
Comme cette question de durabilité, donc. Est-ce qu'il y a des systèmes qui existent depuis Bali?
Bali, depuis 200 ans, c'est pas mal.
C'est
la première fois qu'on a décrit, c'est 1845
qu'on a décrit. C'est quand même malheureux que.
Mais d'abord, la première chose, c'est que personne ne le voit. Non, mais attention, je suis sérieux. Hein. Bali est probablement la société la plus étudiée au point de vue anthropologique dans l'histoire de l'humanité. C'est un hobby pour tous les anthropologues d'aller à Bali pour faire leur thèse. Hein. Il y a plus de thèses sur Bali par tête d'habitants qu'il y en a beaucoup. Hein. Et comme il n'y a aucun anthropologue qui comprend la monnaie, parce que ça ne veut pas partir de tout, il n'y a personne qui a vu le système monétaire. Ça va ? Bon. J'ai passé 4 mois à étudier leur truc pour voir ça. Ça va ? Vous avez une question ? Regardez la chose.
Et on ne voit pas. Qui s'est à payer ?
Personne, moi.
Dernière question, puis on va terminer pour rester dans le temps.
Non, moi, ça ne me laisse pas forcément une question, mais c'est plus une démarche de me dire finalement, on a un travail sur le champ de réalité. On imagine un champ de réalité qui est amené par nos croyances, notre éducation, etc. Donc, et on l'enferme, et donc effectivement, ça ne nous permet pas de voir le champ de réalité suivant, plus le nouveau qui va peut-être avancer après. Si on essaye d'ouvrir ça, et moi j'appelle la notion d'éveil, qui doit aussi passer par l'éducation, mais par rapport surtout à tout un tas d'expériences à différentes échelles, que ce soit au niveau des entreprises, au niveau des associations, au niveau de tous les approches. Moi, c'est plus ça, ton attaque, c'est la notion d'éveil. C'est-à-dire que vous n'en avez pas conscience, mais vous ne voyez pas, maintenant, qu'il y a aussi l'aspect d'altérité, d'ouverture. Ce qui s'en va libre, hein, j'en sais rien. Ce qui passe au Japon, j'en sais rien non plus. Qu'est-ce qu'on voit de l'actualité ou qu'est-ce qu'on voit du système, de la culture des autres, bah, que du vernis.
Bien sûr. Et on est aveugle. On a, tout le monde a le point aveugle de la monnaie.
Ça conditionne
nos choix. Depuis des milliers d'années. Normal, comme un rôle, c'est ça qu'il faut.
Bernard, peut-être juste pour terminer, avoir une question vraiment très personnelle vis-à-vis de toi. Comme tu es à la base de l'écu, est-ce que quand tu as développé l'écu, tu voulais en faire une monnaie complémentaire ou si tu étais plutôt encore dans un système de dire non, je veux faire une monnaie alternative?
Commençons par dire que ce n'est pas moi qui ai choisi de faire une décision politique et j'étais la partie technique qui le faisait. Hein. Bon, on m'a demandé de faire ça. D'accord ? Ce n'est pas moi qui ai été mis à compter. J'ai proposé trois solutions différentes à l'époque, dont une seule a été acceptable, c'est-à-dire reproduction identique et actuelle à la plus grande échelle. Ouais. Rien de net tolérable. Mais discutable, mais sur la table, ça va, on était, donc, ça a été clair dès le début. On me demande d'apporter mon truc, mais là. Bon, voilà.
Ça répond à ma question.
Alors, on va terminer parce qu'on a cette habitude de vraiment laisser partir tout le monde pour déjeuner à des heures raisonnables. Un grand merci Bernard, parce que pour rebondir un peu sur ce que vous venez de dire, on n'a pas du tout évoqué le mot philosophie aujourd'hui, pourtant c'est un séminaire de philosophie et management. Je pense, enfin en tout cas c'est mon avis, qu'on en a fait beaucoup, parce que tout ce que tu nous as dit Bernard nous amène, nous stimule à réfléchir en profondeur sur certaines visières que nous avons peut-être par rapport à l'économie, par rapport à la monnaie, par rapport à notre vie en société, et en ce sens, pour moi, c'était vraiment la philosophie en action que nous avons fait ce matin, et vraiment un tout grand merci. Alors, quelques petits détails pratiques. Notre prochain séminaire aura lieu le 14 novembre, 14 du 11, et ce sera avec Isabelle Ferreras sur la démocratie en entreprise. Est-ce possible? Est-ce que c'est une utopie ou est-ce qu'on peut effectivement évoluer? Et vous le verrez, je pense, on va retrouver certains des aspects que nous avons abordés aujourd'hui de manière parfois indirecte, tout comme d'ailleurs ce que Bernard nous a dit aujourd'hui faisait fortement le lien, je pense, avec les comments que nous avons discutés il y a un mois avec Dardo et Laval, pour ceux qui étaient là. Donc il y a une certaine continuité dans le cycle que nous avons cette année. Pour le reste, nous allons veiller à mettre sur le site les informations dont a parlé ici Bernard, éventuellement essayer de trouver des livres de référence qu'il pourra nous communiquer, et je vous invite, si vous le voulez, à aussi mettre vos commentaires sur le site. Il y a toute une... Enfin, ce que nous aimerions pouvoir faire, c'est initier à travers le site également une continuation du débat que nous avons eu aujourd'hui. Donc si certains ont des exemples, d'autres informations à partager sur tout ce que nous avons discuté ce matin, bien volontiers, donc rendez-vous sur le site de Philosophie et Management.